Mercredi 21 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. Emmanuel Macron accuse Moscou de provoquer le retour des impérialismes et des colonies. Discours très ferme du président de la République hier soir devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors que la Russie s'apprête à annexer 4 régions ukrainiennes occupées par ses troupes, nous serons à New York dès le début de ce journal. Une nouvelle avancée pour les femmes, la pilule du lendemain. Elle sera gratuite pour toutes les femmes sans condition d'âge et sans ordonnance. Des femmes qui n'hésitent à défier le pouvoir des mollahs, ça se passe en Iran. Révolte après la mort de Mahsa, arrêtée par la police des mœurs et de la vertu. Ces femmes descendent dans la rue, elles retirent leur foulard islamique, quitte à aller en prison. Et puis l'affaire Quatennens peut-elle faire vaciller Jean-Luc Mélenchon? Le leader de la NUPES est de plus en plus contesté en interne, vous l'entendrez. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, il n'a pas pris de gants. Emmanuel Macron s'en est pris violemment à la Russie hier soir à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État accuse clairement Moscou d'avoir provoqué le retour à l'âge des impérialismes et des colonies pour qualifier l'agression russe contre l'Ukraine. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alexis, vous avez assisté à ce discours du président français. Cette allocution d'une trentaine de minutes a tourné au réquisitoire contre Moscou et les pays qui préfèrent garder le silence sur l'agression russe.
Oui, Emmanuel Macron l'a martelé à plusieurs reprises. Avec la guerre en Ukraine, la Russie signe le retour de l'impérialisme. Il y a un risque, selon le chef de l'État, celui d'une nouvelle partition du monde. Alors le président s'est adressé aux pays restés neutres depuis le début du conflit, en dressant une comparaison historique avec les États non alignés, ceux qui fuyaient la logique de bloc au moment de la guerre froide.
Le combat des non alignés, c'était un combat pour la paix, c'était un combat au service de la souveraineté des États. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible.
Face aux défis climatiques et alimentaires, Emmanuel Macron plaide pour un sursaut collectif. Il est urgent de bâtir un nouveau contrat, un nouveau pacte de solidarité entre le Nord et le Sud. Et sur ce point, il faut que les pays du G7 les plus riches montrent l'exemple. Enfin, dans cette vision du monde plus égalitaire, le président défend une réforme du Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et limiter le recours au droit de veto en cas de crime de masse. Veto utilisé par la Russie depuis le début du conflit en Ukraine.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Alors, on attend incessamment sous peu une intervention télévisée de Vladimir Poutine. Moscou continue d'avancer ses pions sur le terrain ukrainien et convoque des élections dans les régions occupées.
Un référendum d'annexion dont le but est de rattacher 4 régions à la Russie, Logansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia se prononceront entre le 23 et le 27 septembre sur leur avenir. L'issue du vote ne fait aucun doute, elles deviendront des provinces russes. Washington et la plupart des capitales occidentales dénoncent un simulacre de référendum qui n'aboutira en aucun cas à leur reconnaissance. Condamnation quasi unanime saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. On l'écoute.
Merci aux amis et partenaires de l'Ukraine de condamner fermement les tentatives de la Russie de lancer ces pseudo-référendums.
Voilà, le message de remerciement du président Volodymyr Zelensky, message adressé via l'application Telegram.
Il est 7h04 sur Europe 1. C'est une avancée majeure pour les femmes qui souhaitent maîtriser leur contraception. Elles auront désormais accès à la pilule du lendemain gratuitement et sans restriction.
Et plus besoin d'ordonnance et plus de conditions d'âge. Le ministre de la Santé, François Braun, veut mettre la prévention sous toutes ses formes au cœur de sa politique, Chloé Lagadou.
Oui, les femmes pourront donc se procurer la pilule du lendemain gratuitement en pharmacie et sans ordonnance. Jusqu'à présent, la contraception d'urgence était gratuite seulement pour les mineurs et les moins de 26 ans. Pour les autres femmes, le coût en pharmacie pouvait aller de 3 à une vingtaine d'euros en fonction des médicaments. Et d'ailleurs, chez les majeurs, le prix était le premier motif de renoncement à la pilule du lendemain. Autre gratuité annoncée, le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles. C'était déjà le cas de celui du VIH, mais désormais, le dépistage des IST sera donc possible sans prescription et gratuitement pour les moins de 26 ans. Ces deux mesures seront donc inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, qui sera, lui, présenté en Conseil des ministres lundi prochain.
Chloé Lagadou, le ministre, ouvre par ailleurs la porte à une réflexion sur la contraception masculine et son accès. Il va demander à la Haute Autorité de Santé des recommandations sur cette question.
La politique maintenant. La France insoumise est-elle en train d'imploser? Rien ne va plus dans le parti depuis l'éruption de l'affaire Quatennens
sur la place publique.
Le député du Nord avoue avoir giflé sa femme alors que le couple est sur le point de divorcer. La rupture est déjà consommée dans les rangs du parti. Les féministes dénoncent la complaisance de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du désormais ex numéro 2 du parti. La statue du commandeur Mélenchon n'est pas encore tombée, mais elle vacille déjà sur son socle, Alexis de La Fontaine.
Oui, un point de bascule. Pour la première fois dans l'histoire de la France insoumise, la parole de Jean-Luc Mélenchon n'est plus sacrée. Normalement, les messages Twitter du leader insoumis sont repris en cœur par tous ses fidèles, mais là, silence radio. Pire encore, en interne, la frange féministe impose une autre communication, car la nouvelle génération insoumise ne supporte pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens, sans un seul mot pour la victime, comme Clémentine Autain qui cache difficilement sa colère.
C'est normal qu'il y ait une colère, qu'il y ait une tension, enfin, c'est logique. On a envie que ça cesse. On a envie que ça cesse, ces violences.
L'autorité jusqu'ici incontestée de Jean-Luc Mélenchon est mise à mal. La députée insoumise Pascale Martin dénonce même une position insuffisante et intenable. Réunis en comité restreint lundi soir, certains députés décrivent cet événement comme une rupture de la cohésion dans un parti habitué à la discipline.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1, la NUPES secouée par une autre affaire. Elle concerne le secrétaire national des Verts, Julien Bayou. Ah non, abandonne la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Il est visé par une enquête interne après les confessions de son ex-compagne. La nature exacte des faits reprochés à l'élu reste inconnue à ce stade.
7h06, vent de révolte en Iran après la mort de Mahsa Amini.
Les manifestations se multiplient dans tout le pays pour dénoncer le décès de la jeune femme de 22 ans, arrêtée la semaine dernière à Téhéran par la police des mœurs. Son crime, avoir laissé s'échapper une mèche de cheveux de son voile. Depuis, de nombreuses femmes se filment visage à découvert en train de se couper les cheveux. Mahsa, devenue symbole de l'oppression des femmes, Caroline Baudry.
Même à Sari, ville de 300 000 habitants au nord-est de Téhéran, des femmes dansent, cheveux au vent, autour d'un feu, avant d'y brûler chacune leur hijab acclamé par la foule. Ce voile qui cache les cheveux est obligatoire en public. En Iran, l'OT est passible de prison. Mais selon ces nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est bien tête dénudée que des femmes défilent parmi les centaines de manifestants qui affrontent la police du régime aux quatre coins du pays. Dans la capitale Téhéran, Abba, la République islamique entonne ses manifestants. Farhad Khosrokavar est ancien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de l'Iran. Ce qui est nouveau, selon lui, c'est le point de départ de cette insurrection, la protestation contre le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran.
Il y a des femmes maintenant qui n'acceptent plus et qui vont provoquer le régime. Or, énormément de manifestants sont des hommes. Il y a une sorte de solidarité entre les hommes et les femmes. Si cela continue pendant une certaine période, on risque d'assister à l'ébranlement du régime. Ce n'est pas encore le cas en ce moment précis.
Une situation explosive sur fond de graves crises économiques et d'une vague de répression depuis l'arrivée au pouvoir du président ultra-conservateur Raisi en 2021. Cette même année, au moins 330 personnes auraient été exécutées par le régime. C'est 25% de plus qu'en 2020.
Caroline Baudry, et le bilan de ces manifestations s'établit pour l'instant à 3 morts.
Nous sommes mercredi, jour des enfants, jour du sport aussi. Souvent, ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire en club.
Oui, on parle des sports collectifs, le handball, le basket ou encore le volley, ces sports que l'on appelle parfois, Dimitri, des sports de préau. Pourquoi ? Parce qu'ils se jouent en intérieur. On le dit d'ailleurs souvent avec un brin de condescendance. Eh bien, en tout cas, Axel May, ils attirent de plus en plus les jeunes.
Oui, à la Fédération française de handball, le président Philippe Bana parle de raz-de-marée.
On pense qu'on va dépasser le demi-million à la fin de l'année de licenciés du handball, plus qu'à la grande époque. Donc on va être entre 500 et 600 000 licenciés cette année. Le record était à 480 000 licenciés en 2019.
En volley et en basket aussi, les fédérations constatent que les chiffres d'avant la pandémie sont en train d'être battus. Il y a bien sûr les résultats exceptionnels des sports collectifs aux Jeux Olympiques l'an dernier pour expliquer une telle augmentation des licences. Mais ce n'est pas la seule raison, selon Jean-Pierre Sutta, président de la Fédération française de basket, qui revendique plus de 700 000 licenciés.
Globalement, les gens ont envie de faire du sport, ou les gens ont envie de mettre leurs enfants au sport. Et c'est vrai qu'on a, une basket, une image positive. Et la seule limite que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité de nos clubs d'en accueillir davantage. Aujourd'hui, là, à date, il y a certains clubs qui sont déjà à saturation.
Autre explication à cette augmentation des inscriptions, le développement de pratiques annexes comme le baby handball ou le basket à 3 contre 3. Mais malgré leurs bons résultats, ces sports collectifs restent loin du mastodonte qu'est le football avec environ 2 millions de licenciés.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Le football qui peut aussi se jouer en intérieur, mais pas à 11.
Alors foot, il faut un grand regard. Foot, basket, handball, Christophe, une préférence?
Ah, j'ai toujours eu un faible pour le hand.
Voilà.
Et pour le basket parce que je voulais grandir, mais ça n'a pas marché.
Merci Christophe. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. L'Olivier Deladoucette, le président de la fédération, la fondation Recherche Alzheimer, pardon, sera et l'invité d'Europe Matin.
7h, 9h,
Europe Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
La Russie est responsable d'un retour des impérialismes et des colonialismes en Europe. Les mots d'Emmanuel Macron hier à la tribune des Nations Unies, alors que les autorités pro-russes ont annoncé hier la tenue de référendums d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie. Le vote se tiendra du 23 au 27 septembre. Dans ce contexte, Vladimir Poutine, qui devait faire une allocution télévisée hier soir, l'a reportée à ce matin. La pilule du lendemain, gratuite, sans limitation d'âge ni ordonnance, déclaration dans les colonnes de 20 minutes du ministre de la Santé, François Braun. Autre annonce, le dépistage des infections sexuellement transmissibles deviendra gratuit jusqu'à 26 ans.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Ce mercredi, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, décrite en 1906, pourtant toujours sans remède à ce jour. Et on recense près d'un million de malades en France. Bonjour Olivier Deladoucette.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes psychiatre, gériatre, président de la fondation Recherche Alzheimer. Maladie amechelante, on la connaît désormais, cette maladie d'Alzheimer, qui se manifeste par des pertes de repères, des pertes de mémoire, etc. Je vous propose qu'on ait une conversation ce matin sur ce que l'on sait d'elle, parce que je disais, les symptômes en sont décrits de longue date, toujours pas de traitement, mais on sait comment la prévenir aujourd'hui, Olivier Deladoucette. Comment on fait aujourd'hui pour vivre avec cette possibilité pour chacun d'entre nous, d'un jour contracter cette maladie? Comment on l'anticipe?
Eh bien, ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a des approches qui permettent de prévenir cette pathologie. En d'autres termes, on n'est pas certain d'empêcher la maladie d'apparaître, mais on peut repousser de manière très significative l'âge d'apparition de la pathologie. On peut gagner des années de vie sans Alzheimer, du moins sans les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Parce que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que c'est une pathologie qui va apparaître 10-15 ans avant les symptômes.
Elle avance masquée et c'est une maladie amechelante.
C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une accumulation de protéines anormales dans le cerveau qui vont s'accumuler très très lentement. Le cerveau va compenser jusqu'au moment où il ne pourra plus et les symptômes apparaîtront. Donc tout ce qui va aider le cerveau à compenser va permettre de repousser l'apparition des symptômes. Et ça, nous connaissons aujourd'hui un certain nombre d'approches qui permettent justement d'aider le cerveau à compenser et peut-être même empêchent la maladie de se déclencher.
Oui.
Nous n'en sommes pas encore tout à fait certains. C'est ça qui est très étonnant avec cette pathologie, c'est qu'on a repéré ce qui se passe.
Vous connaissez le mécanisme, mais vous ne savez pas pourquoi.
On ne sait pas qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme. Mais aujourd'hui, donc, nous avons bien compris comment empêcher, si vous voulez, ces symptômes d'apparaître, du moins repousser de quelques années l'apparition de ces symptômes.
Oui, il y a eu une grande étude publiée il y a quelques années, 2 ans de ça, dans The Lancet, qui nous dit qu'avec un mode de vie adapté, on pourrait prévenir ou retarder jusqu'à 40% des cas d'Alzheimer. C'est énorme. Mais alors, c'est quoi ce mode de vie qu'il faudrait, ce mode de vie anti-Alzheimer, docteur Ladoucette?
Mais là, écoutez, on a donc maintenant identifié un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est parcouru par des millions de tout petits vaisseaux qui vont apporter en permanence à notre cerveau l'oxygène, le sucre, le glucose et beaucoup de métabolites indispensables. Donc tout ce qui va déjà permettre à notre cerveau d'être correctement irrigué est, vertueux pour prévenir cette maladie. Alors, on appelle ça, si vous voulez, nous, les bourreaux du cœur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on les connaît tous par cœur. C'est l'hypertension artérielle, c'est l'hypercholestérolémie, c'est le tabagisme, le diabète qui altère ces petits vaisseaux quand il n'est pas stabilisé et la sédentarité.
Donc, il faut que je fasse du sport, que je mange sainement, que je ne boive pas trop d'alcool, que je ne fume pas, finalement.
Puis exactement. Si on peut faire tout ça à la fois,
ça, c'est le mode
déjà,
de vie anti-Alzheimer.
On se protège d'une certaine manière, mais on se protège pour beaucoup d'autres choses au passage, qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut rajouter d'autres choses. Nous savons également que le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et c'est-à-dire qu'il faut stimuler son cerveau tout au long de sa vie. et très précocement, parce que quand on a, par exemple, la chance de faire des études poussées, le cerveau va être très stimulé, on va avoir un métier qui va être stimulant, et tout au long de sa vie, on va pouvoir développer ce qu'on appelle la réserve cognitive, qui permet donc eh bien, notre cerveau, dès lors qu'il est attaqué par la maladie, eh bien, de résister longtemps. Donc, on reste stimulé, on reste curieux des choses et des gens. C'est tout à fait indispensable.
Est-ce que vous dites aussi qu'une vie sociale épanouie, c'est un facteur aussi qui permet de retarder Alzheimer ?
Exactement. On s'est rendu compte que les gens qui vivaient entourés, qui avaient des interactions positives avec leurs semblables, se protègent contre la maladie d'Alzheimer. Il faut donc lutter contre la solitude. On peut rajouter également d'autres choses. Il faut par exemple faire attention à l'audition. Beaucoup de gens entendent mal passer un certain âge, notamment les hommes, et hésitent à être appareillés.
Or, c'est assez tôt d'ailleurs, c'est des 40-45 ans, on peut perdre des petits points d'audition sans s'en rendre compte. C'est d'où l'importance aussi de ces diagnostics.
Exactement. Donc il faut être appareillé dès lors qu'on a des troubles de l'audition. Il faut y penser le plus tôt possible. Et puis il faut dormir correctement.
Ah oui.
C'est très important, le sommeil est protecteur. Alors je vois que vous souriez.
Alban se lève à 2h du matin, donc elle a une petite...
Absolument. Mais vous pouvez récupérer dans la journée par quelques siestes, par exemple.
Oui, des vraies bonnes siestes.
Donc le sommeil, et je finirai enfin peut-être par le stress, la dépression et l'alcool. Il faut faire attention à la consommation d'alcool.
Alors, malgré tout, la maladie d'Alzheimer, je le disais, c'est près d'un million de malades aujourd'hui. Il y a tellement de questions que j'aurais aimé vous poser, docteur, on ne va pas avoir le temps, mais la question des aidants. Il y a eu cette histoire, le cas de Catherine Guillouard, patronne de la RATP, qui a créé la surprise en annonçant sa démission pour aller s'occuper de ses parents atteints de maladies neurodégénératives. Comment être là pour ses parents aujourd'hui? On sait que c'est un angle mort aussi des politiques publiques aujourd'hui.
Absolument. Vous avez dit tout à l'heure, Alzheimer, 1 million de patients. En réalité, c'est 3 à 4 millions de victimes de la maladie d'Alzheimer. Car Alzheimer, ce n'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est la maladie d'une famille. Car c'est une pathologie qui nécessite de réorganiser totalement la famille pour venir en aide à ces personnes qui vont être progressivement en perte d'autonomie. Il va falloir être auprès d'elles, parfois quelques heures, et parfois toute la journée, voire nuit et jour. Et c'est extrêmement éprouvant pour les familles qui s'organisent comme elles peuvent et qui, parfois, sont obligées de renoncer à leur métier, de renoncer à leurs loisirs pour être au service de ces personnes qui sont nécessiteuses d'une présence permanente.
Voilà, et on retombe sur le sujet aussi de la prise en charge de la dépendance. Vous savez, c'est l'un des enjeux notamment de la réforme des retraites, comme quoi, vous voyez, tout est lié.
Tout est lié. Alzheimer, c'est la première cause de dépendance dans les pays développés.
Merci, docteur Olivier de la Doucette, d'être venu nous voir. Président de la Fondation Recherche Alzheimer, comment fait-on pour vous aider d'ailleurs, puisque c'est la journée de la maladie d'Alzheimer?
Eh bien, vous allez sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer et là, vous aurez la possibilité de faire un don, car tous les dons sont nécessaires. Il est indispensable qu'il y ait une mobilisation générale en faveur de la recherche pour cette pathologie, car finalement, la meilleure prévention contre la maladie d'Alzheimer, c'est la recherche qui nous permettra un jour de trouver un traitement.
Merci, Olivier de la Doucette, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Il est 7h20.
Europe Matin. HelloWork, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou. Oui. Ah, je sais que vous avez écouté attentivement Olivier de la Doucette, les sujets de santé vous passionnent. Tiens, je vous donne juste ce chiffre pour continuer. 50 millions de malades d'Alzheimer dans le monde, ça coûte 1000 milliards de dollars par an au système de santé, c'est dire. Mais bon, c'est pas notre sujet du jour. On nous annonce la 8e vague de Covid, Nicolas. Est-ce que ça va avoir des conséquences économiques?
Ça dépend où. Alors, en Europe et aux États-Unis, clairement pas. Il n'y a plus de mesures de restriction susceptibles d'avoir un impact économique chez nous. Alors, certains secteurs ne se sont pas encore remis de la crise, comme les croisiéristes, par exemple, avec des taux d'occupation des bateaux qui souvent ne dépassent pas 50%. Mais bon, au niveau global, au niveau macroéconomique, comme on dit, on ne voit rien de négatif. Au contraire, d'ailleurs, les difficultés d'approvisionnement qui étaient nées avec la pandémie et que la guerre n'a pas arrangé, évidemment, sont en voie de résorption. On le voit dans les enquêtes qui sont réalisées auprès des entreprises. Depuis cet été, en Europe et aux États-Unis, les délais de livraison, par exemple, les prix des approvisionnements sont en forte baisse. C'est d'ailleurs au passage plutôt de bon augure pour l'inflation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'économie européenne va très bien, mais l'économie de marché est quand même incroyablement plastique. Elle s'adapte formidablement bien, même à une pandémie de ce type.
Alors, comment vous expliquez que nos économies soient devenues Covid-résistantes ?
Ouais, faut noter deux choses, Dimitri. Déjà, les entreprises sont devenues très efficaces, je le disais, en matière d'approvisionnement et de logistique. Elles sont progressivement sorties de la dépendance unique à la Chine. Elles diversifient géographiquement leurs achats, souvent sous la seule pression de leurs actionnaires. Et de ce point de vue-là, l'économie, l'approvisionnement est devenue très, très résilient. Et puis ensuite, alors on a un peu tendance à l'oublier, mais enfin, c'est le facteur le plus important. Merci la science, merci les vaccins, merci l'innovation, hein. Le CDC, c'est l'Agence de santé fédérale aux États-Unis, vient d'actualiser ces données. Pour les personnes de plus de 50 ans, 4 doses de vaccin réduisent le risque de décès de 94%. 3 doses réduisent le risque de 83,5%, pour être précis, quel que soit le variant. Et le vaccin diminue aussi la probabilité d'avoir un Covid long. Bon, ben pour toutes ces raisons, notre économie est elle aussi immunisée contre le Covid.
Alors vous disiez, Nicolas, que ça ne vaut pas pour tous les pays du monde.
Oui, je pense évidemment à la Chine, hein, où la croissance économique est nulle. Le pays mène une politique zéro Covid avec des vaccins pas très efficaces, une politique économique erratique, et on a l'impression que rien n'avance, hein. Aucun signe de détente de la politique sanitaire. Alors les autorités veulent à tout prix faire croire que la situation est meilleure en Chine qu'aux États-Unis, mais c'est évidemment pas vrai. Shanghai, qui est une ville qui a connu des restrictions importantes, hein, a connu une récession de près de 15% wow. au deuxième trimestre de cette année. La consommation chute. Alors, le gouvernement essaie de compenser avec des dépenses dans les infrastructures, mais ça ne compense pas la baisse de la consommation. En réalité, l'économie chinoise est prisonnière de la propagande sanitaire. Elle ne tient plus qu'à ses exportations, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine dépend de nos économies à nous.
Merci beaucoup pour votre regard, Nicolas Bouzou, du lundi au jeudi sur Europe 1. Il est 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est Alban Le Prince pour le journal permanent.
La pilule du lendemain gratuite pour toutes sans ordonnance. Déclaration de François Braun dans le journal 20 minutes. Le ministre de la Santé annonce aussi la gratuité des dépistages d'infections sexuellement transmissibles jusqu'à 26 ans. Après Adrien Quatennens, Julien Bayou, accusé de violence psychologique sur une ex-compagne, Europe Écologie Les Verts annonce sa mise en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée et précise que cette décision ne vaut pas démission. Et puis Elisabeth Borne reçoit les présidents des groupes parlementaires aujourd'hui au menu des discussions, notamment la réforme des retraites.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur une marche pour la paix qui a marqué les esprits. C'était le 25 octobre 1981.
Oui, à l'été 1981, le président Reagan annonce la fabrication de 200 000 bombes à neutrons, ce qui rend possible une bataille nucléaire localisée en Europe. Cette décision inquiète en Europe, en particulier chez les jeunes. En France, la marche pour la paix, le 25 octobre 1981, est lancée par le Parti communiste.
Le désarmement, ouais. C'est une nécessité très grande.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un danger imminent de guerre qui concerne tout le monde, en particulier l'Europe. Le désarmement, il doit venir du côté des Américains.
Pourquoi ?
Parce que c'est eux qui poussent la course aux armements.
Ce jour-là, on s'interroge sur la manipulation éventuelle du mouvement par l'URSS. Dans la manifestation parisienne, il y a même un militaire, l'amiral Sanguinetti, qui est lui aussi contre la course à l'armement.
Évidemment, on peut se demander ce que fout un militaire là-dedans. Hein ? Nous pensons qu'il est de notre devoir de dire que la course aux armements n'a plus aucun sens militaire, en tout cas. Quand on a de quoi détruire 20 fois la planète, et quand on l'aura détruite une fois, qui sait qui utilisera les 19 autres ?
Construire de nouvelles armes ne sert à rien, dit ce militaire, il faut commencer à désarmer.
Alors au même moment, lors le Parti Socialiste, lui qui vient tout juste d'arriver au pouvoir, est en plein congrès à Valence et refuse de participer à cette manifestation.
Oui, il refuse d'être récupéré par le Parti communiste, mais certains manifestants qui sont présents à Paris disent qu'ils sont seulement pacifistes, qu'ils ne prennent parti ni pour le bloc américain ni pour le bloc soviétique. En Allemagne, qui géographiquement est collée au bloc soviétique, eh bien la manifestation de ce mois d'octobre 81 remporte un grand succès et n'est pas suivie que par la gauche, mais aussi par les libéraux. Sur place pour Europe 1, André Ancian.
L'Allemagne touche au monde communiste. Sur son territoire, 7000 têtes nucléaires, la plus formidable concentration du monde. Et il est prévu d'y ajouter encore 500 euromissiles qui, pour la première fois, permettront de frapper le cœur de l'Union soviétique. Alors, beaucoup d'Allemands, tout simplement, ont peur. Peur que la poudrière sur laquelle ils vivent soit la première cible d'un nouveau conflit.
En cette année 1981, des jeunes Allemands expliquent alors qu'ils rêvent d'une Allemagne neutre et réunifiée.
Voilà, 40 ans plus tard, l'Allemagne entend devenir la première puissance militaire conventionnelle d'Europe. Le pacifisme a-t-il vécu ? Tiens, tiens, merci Laure d'Autriche. Dans le prochain journal, que va dire Vladimir Poutine ? Il doit s'exprimer ce matin. Va-t-il décréter la mobilisation générale en Russie ? On en parle dans le prochain journal, 7h27.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
À la une, l'école française a des progrès à faire. Moins de 15% des élèves bénéficient du cours d'éducation à la sexualité, qui est pourtant un enseignement obligatoire, mais délaissé. Résultat, beaucoup d'adolescents confondent images pornographiques et réalité, vous l'entendrez. L'effet domino chez la NUPES après l'affaire Quatennens chez les Insoumis. Le patron des écolos, Julien Bayou, est lui aussi accusé de violence contre son ex-femme. Il a annoncé sa mise en retrait de ses fonctions hier. Et puis le discours attendu de Vladimir Poutine, il doit prendre la parole ce matin. Le président russe va-t-il annoncer la mobilisation générale alors que la guerre en Ukraine s'éternise ? On fait le point dans un instant.
Europe 1.
Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Finalement, qui est le plus mal à l'aise avec le sujet ? Vous ou votre ado ? L'éducation sexuelle, un sujet délicat, on peut le dire. Heureusement, c'est un enseignement obligatoire à l'école, 3 séances par an, pardon, officiellement. Mais faites le test, demandez à votre enfant, vous verrez, le compte n'y est pas. Dans un rapport remis au gouvernement révélé hier, moins de 15% des élèves ont suivi l'un de ces cours. Et quant à ceux qui en ont bénéficié, les retours sont mitigés. Parole de collégiens et lycéens parisiens.
L'intervenante n'a pas parlé trop de trucs pour les filles. Enfin, nous, on n'a eu aucune précision sur les relations sexuelles. Donc déjà, il y a beaucoup de tabous autour de ça et je pense un peu de sexisme parce que les garçons parlaient de plein de trucs et nous, on était au courant de rien.
Ils ont expliqué la reproduction. Je trouve que c'est bien de l'apprendre au collège parce que c'est un sujet un peu tabou avec les parents.
Il n'y a aucune notion qui peut aider les jeunes gens d'aujourd'hui pour savoir comment faire. Ils nous disent ce qu'il y a, mais après, ils ne nous donnent pas le mode d'emploi, on va dire.
On ne parle pas non plus dans les cours d'éducation sexuelle à quel point la communication est importante, le respect. Consentement, évidemment, c'est la base la plus importante. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à ma première relation, bah, ça s'est très très mal passé. J'avais comme exemple les films pornographiques et je me suis retrouvée à la réalité et c'était pas du tout ça. C'était un brouillon et on parle vraiment pas de ça et je trouve ça vraiment très dommage.
Témoignage recueilli par Chloé Lagadou pour Europe 1.
Alors Geoffrey Branger, ces lacunes que l'on vient d'entendre, cela inquiète le ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, Pape Ndiaye veut relancer cet enseignement à l'éducation sexuelle.
Oui, parce que ces cours d'éducation à la sexualité ont plusieurs objectifs. D'abord, de santé publique, pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour informer sur la contraception. Après, ce que Pape Ndiaye veut développer, c'est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles et sexistes, les stéréotypes et une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Points sur lesquels les adolescents ne sont pratiquement jamais sensibilisés à l'école. Selon les spécialistes, sans éducation à la sexualité, le seul moyen pour les collégiens et les lycéens de découvrir ce qu'est un rapport sexuel, ce sont les images ou vidéos pornographiques. Et pour Thomas Romer, fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, c'est là tout le problème.
Le combat, il n'est pas à mener contre la pornographie, mais à bien offrir un contre-discours pour pouvoir permettre de remettre en perspective ces images et qu'ils comprennent que ces images, elles remplissent un objectif d'excitation, mais qu'en aucun cas, elles ne doivent venir se substituer à ce que doivent être des rapports consentis, respectueux pour les femmes, etc., etc.
Du côté de l'éducation nationale, plusieurs options sont sur la table, comme intégrer au programme de certaines disciplines l'éducation à la sexualité, et donc y dédier 3 séances annuelles dans les emplois du temps, ou encore former le personnel éducatif pour faciliter cet enseignement qui peut être délicat.
Geoffrey Branger, puis une mesure qui concerne les ados et les adultes, la gratuité de la pilule du lendemain pour toutes les femmes, le ministre de la Santé l'a annoncé hier soir.
Il est 7h34 après l'affaire Quatennens. Voici le cas Bayou qui fragilise un peu plus la NUPES.
Julien Bayou, patron des Verts, n'est plus coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Une mise en retrait face à une pression trop forte, celle déclenchée par les accusations de Sandrine Rousseau en début de semaine à la télévision. La députée écologiste a évoqué, je cite, un comportement de nature à briser la santé morale des femmes, en l'occurrence de l'ex-compagne de Julien Bayou. Arthur Delaborde, cette révélation interroge tout de même au sein des Verts.
Eh bien, selon nos informations, l'ex-compagne de Julien Bayou a elle-même récemment autorisé Sandrine Rousseau à dévoiler ses accusations que la députée connaissait depuis le mois de mai. Mais pourquoi donner un poids médiatique à cette affaire alors que pour l'instant, ni plainte ni main courante n'ont été déposées ? A-t-elle voulu régler des comptes politiques avec Julien Bayou pour servir sa propre ambition interne ? Ce n'est pas ce que pensent plusieurs cadres écologistes avec qui nous avons pu échanger. D'après eux, cette prise de parole de Sandrine Rousseau était plus impulsive que calculée. Un de ses collègues à l'Assemblée l'interprète comme une volonté de poursuivre son combat contre les violences faites aux femmes, avec, je cite, « toute l'intransigeance qu'on lui connaît ». Une autre élue y voit une manière de se protéger contre d'éventuelles futures critiques sur son silence. En tout cas, beaucoup en interne considèrent que les propos de Sandrine Rousseau viennent perturber le travail de la cellule d'enquête, qui se veut indépendante et respecte une sorte de secret de l'instruction. Il souligne aussi que les membres de cette commission ont le pouvoir de demander la suspension des personnes mises en cause quand ils estime que cela est nécessaire. Julien Bayou, lui, de son côté, est pour l'instant resté silencieux depuis la révélation de cette affaire.
Arthur Delaborde.
La prise de parole de Vladimir Poutine attendue dans la matinée. Le président russe va-t-il annoncer la mobilisation générale ? Réponse dans cette allocution enregistrée qui doit être diffusée par Moscou.
Un discours après 8 mois de guerre, des combats qui seront d'ailleurs bientôt freinés par la Rasputitsa. On en avait déjà parlé sur Europe 1 au début de la guerre, au printemps. William Molinier, ce phénomène météo va bientôt ralentir la progression des troupes au sol.
Oui, à partir du mois d'octobre, des pluies diluviennes commenceront à tomber sur les terres noires d'Ukraine, transformant le sol en bougluante. Impraticable pour les chars et les blindés qui devront rester sur les axes principaux, mais qui seront donc beaucoup plus exposés aux tirs d'artillerie. Voilà pourquoi plusieurs analystes militaires estiment que la ligne de front devrait se stabiliser d'ici à 15 jours. Il n'y aura sans doute pas de conquête territoriale majeure pendant cette période automnale. Il faudra attendre le froid de l'hiver pour que durcisse cette croûte de terre sur laquelle les engins mécanisés pourront alors à nouveau avancer. D'ici là, pour les Ukrainiens, la ville de Liman, dans l'Est, apparaît comme stratégique. S'ils parviennent à s'emparer de ce verrou tenu par les Russes, ils pourront alors espérer les attaquer par le flanc droit et les encercler. De leur côté, les Russes vont très certainement profiter de ce temps de pluie peu propice aux grandes manœuvres pour régénérer leurs forces. Selon plusieurs états-majors occidentaux, 15 000 soldats russes ont été tués et 30 000 autres blessés depuis l'invasion de l'Ukraine en février dernier.
Les explications de William Molinier, la guerre en Ukraine partie pour durer, comme d'ailleurs la crise de l'énergie en France. La sobriété sera au menu de votre Noël. La mairie de Paris va restreindre les illuminations sur les Champs-Élysées. Les guirlandes s'éteindront 2 heures plus tôt et elles resteront accrochées 6 semaines et non plus 7.
Voilà, dans certaines communes, on a fait le choix de ne pas en mettre du tout. Je ne vous dis pas, ça fait débat dans certaines communes. Tiens, puisqu'on parle de Noël, voilà peut-être une première idée de cadeau.
Oui, pour ceux qui ont commencé, du moins, je vous propose 2 tickets pour le nouveau spectacle de Jeff Panaclock. Ça s'appelle Jeff Panaclock Adventure. L'humoriste ventriloque et son petit singe orange, c'est le duo qui remplit le plus de salles en France. Et on va comprendre pourquoi grâce à Naïma Benchemann. Attention aux oreilles.
Jeff Panaclock et Jean-Marc, son singe mal élevé, toujours dans les excès, sont de retour dans une nouvelle aventure.
C'est quand même le seul connard que les gens viennent voir, pas pour lui, mais pour son instrument. T'es tout seul.
C'est vrai qu'au départ, c'est pas sexy de venir voir un spectacle de ventriloque, mais en tout cas, j'ai essayé de rendre ça intéressant et donc les gens viennent voir vraiment un duo, comme une pièce de théâtre finalement. Et si les gens peuvent au bout de 3-4 minutes oublier que je suis ventriloque, c'est encore mieux pour moi.
Là, je l'ai fait vacciner, la femme. Hein. 5e dose. En 4 la 5G dans toute la varec, là, je suis content.
Pour ce nouveau show, le duo s'agrandit et de nouveaux personnages s'invitent. Il y a Jackie, le vieux rocker râleur, ou encore Michel, qui n'est autre qu'un terrible virus, le Covid.
Alors, le cluster, on est venu se détendre ce soir ?
C'est un personnage que j'ai voulu faire pendant le confinement. Il était destiné à faire juste quelques vidéos. Après, il y a eu la gestion de la crise et puis beaucoup de choses qui nous ont fait pas mal rigoler. Donc je me suis dit, on va le mettre en avant un peu plus.
Après 2 heures d'un grand vide émotionnel, les rires du public sont unanimes. Ce sont Jeff Panaclock et Jean-Marc qui remportent la palme de ce concours d'insolence. Ouais.
Voilà, et si ça vous a plu, je suis sûre que oui, sa tournée démarre au Dôme de Paris à partir du 30 septembre, voilà. Dans toute la France ensuite.
Mais qui est la star ? C'est Jeff ou Jean-Marc ?
Ou le petit singe, voilà. Il y a débat aussi.
Voilà. L'un sans l'autre, évidemment, ça marcherait moins bien. Merci beaucoup Romain Oquet, on vous retrouvera donc pour le journal de 9h. Dans un instant sur Europe 1, notre page culture, Nicolas Carreau pour le livre du jour, Laurie Choleva qui va nous parler d'Avatar 2, ça va être le gros carton signé à la fin de l'année, et l'édito international de Vincent Hervouet qui nous emmènera en Iran ce matin.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs. Nicolas Caro, bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri.
Galopin, Subok, Napa Caro avec un roman de bistrot ce matin.
Eh ben exactement, j'aurais pas dit mieux. Et dans le Nord, dans le Schnorr.
Et dans le Schnorr. Laurie Choleva aussi pour le cinéma. Bonjour Laurie.
Bonjour Dimitri.
Avec le retour d'Avatar.
Et oui, alors là c'est la ressortie d'Avatar avant la sortie d'Avatar 2 qui sera pour le 14 décembre.
Voilà, et ça sortira en France avant les États-Unis, s'il vous plaît.
Pour une fois qu'on a ce privilège.
Oui, ça se fait de plus en plus. Mais d'abord, Vincent Hervouet, l'édito international. Bonjour Vincent.
Bonjour Dimitri.
La mobilisation populaire avec vous en Iran ce matin après la mort d'une jeune fille arrêtée la semaine dernière par la police des mœurs parce qu'elle portait des vêtements jugés inappropriés.
Oui, la vidéo a été vue des millions de fois. Une jeune fille un peu lourde, drapée dans un grand manteau noir et blanc, résiste à une femme et un homme qui la force à monter dans un minibus à gyrophare. On est à Téhéran la semaine dernière. Elle se fait embarquer direction le commissariat où on doit lui rappeler les règles vestimentaires en vigueur, notamment pas d'imprimé noir et blanc, et lui flanquer une amende. En réalité, elle quitte le poste dans le coma et meurt à l'hôpital. Alors Mahsa Amini, une kurde de 22 ans, en visite à la capitale avec ses parents, prend place dans l'immense cohorte des victimes de la violence d'État en Iran. Et contrairement à l'américain George Floyd, elle n'a jamais braqué de banque, ni cambriolé à main armée, ni consommé de la cocaïne. Mais c'est pareil. Sa mort met la République islamique en ébullition.
Effectivement, depuis trois jours, des manifestations tournent à l'émeute et le mouvement est en train de s'étendre.
Ça a commencé au Kurdistan, où la répression a fait trois morts, selon le gouverneur de la province. Les facultés de Téhéran ont pris le relais. Sur les réseaux sociaux, des femmes se coupent les cheveux ou brûlent leur voile. Leur courage impressionne. Régulièrement, la jeunesse iranienne se rebelle. Le sang coule, les prisons se remplissent et le mouvement s'étouffe. La curiosité, depuis trois jours, c'est que la presse tape à bras raccourcis sur la police de la charia et les autorités embrayent. Le représentant du guide suprême au Kurdistan a passé deux heures au domicile des parents. Il leur a transmis les condoléances d'Ali Khamenei. Il leur a promis que la justice serait faite. Le président du Parlement réclame une enquête. Le chef de l'État, Ibrahim Raisi, qui a imposé cet été un tour de vis ultra-conservateur, en fait autant. Un grand ayatollah dénonce des agissements illégaux, irrationnels, illégitimes. Un député dénonce une police des mœurs qui ne sert à rien et qui nuit à l'image de l'Iran. Un autre propose de la supprimer. L'organisation de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, chargée comme son nom l'indique de faire régner l'ordre islamique, dénonce à son tour les violences policières faites aux femmes.
Est-ce que les conservateurs saisis d'un doute, d'une certaine manière, c'est une révolution dans la révolution là ?
Bien, depuis 43 ans, la patrouille d'orientation, c'est le vrai nom de la police des mœurs, traque les badijabs, les mal voilés. 43 ans qu'elle échoue. Officiellement, les Iraniennes ont le choix entre le hijab, le manteau long assorti d'un voile, et le tchador qui les couvre de la tête aux pieds. C'est la mode automne, hiver, printemps, été, et toute la fantaisie que tolère le ministère de l'Intérieur. Cela n'a jamais suffi aux Iraniennes. La contre-révolution commence avec une mèche de cheveux, le foulard qui glisse vers l'arrière, des lunettes de soleil portées sur le voile, du mascara ou un soupçon de rouge à lèvres. On joue à cache-cache avec les autorités. Parfois, des femmes se dressent et brandissent leur voile. Les laiderons de la police des mœurs sont là pour les punir de leur arrogance. Elles sont détestées. Ça ne veut pas dire que leur tyrannie va cesser. Les autorités lâchent du lest parce qu'elles savent que les Iraniens sont à bout, lessivés par le Covid et par une crise économique épuisante. On voudrait croire que la révolution iranienne va enfin connaître son thermidor. Le plus probable, c'est que le régime a gagné la course au nucléaire et qu'il se sent désormais invulnérable.
Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.
Europe Matin.
Allez, place au livre, au cinéma, Nicolas Caro. Tiens, d'abord, bon anniversaire à Stéphane. Pourquoi vous soufflez comme ça, Vincent ?
Parce que je fais ouf. On dirait que vous dites ouf. Passons à des choses quand même un peu plus légères. Bon, vous avez raison, ah, non, c'est terrible,
mais
c'est tragique.
C'est pas du tout léger. Personnellement, Vincent.
Vous savez que c'est l'anniversaire de Stephen King, il a 75 ans.
On l'embrasse.
Et son dernier roman, Billy Summer, sort aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le lirez, Nicolas.
Oh bah, je vais me jeter dessus.
En tout cas, vous nous emmenez ce matin dans le Schnorr, chez les Ch'tis.
Exactement, avec Jamel Chirigui. Au départ, Jamel Chirigui tient une petite épicerie
dans la vraie vie, indépendante, à Roubaix, pas très loin de l'église Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent. Mais un jour, il décide d'écrire et il a connu un très joli succès il y a 2 ans avec la Sainte Touche. La Sainte Touche, c'est le nom qu'on donne au jour de paye dans le Nord. Il vient de publier son 2e roman à la Grenade, encore un titre tiré de l'argot, le Balato.
Alors c'est quoi ce le Balato ?
J'y viens. Le livre s'ouvre au Saturne, un bistrot tenu par Tonton Mirouche, l'oncle du narrateur, et on lit ceci à la première page. On apprend beaucoup plus de trucs en fréquentant les bistrots qu'en allant à l'université. Les bistrots, c'est une école de la vie, tous les alcooliques vous le diront. Fin de citation. Le Saturne, c'est un bar insalubre, mais convivial. Il tient grâce à ses piliers, l'amiral, Pélican, Corbeau, Rachid le boxeur ou Van Gogh, surnommé comme ça parce qu'il a qu'une oreille. D'ailleurs, dès le début, ça dérape, sans aucune raison apparente. Van Gogh a décidé de se pointer en costume 3 pièces au Saturne, sapé comme un Milord, et en plus, non mais on rêve, il fait comme si de rien n'était. Ça ne plaît pas du tout à Tonton Mirouche, et l'altercation ne va pas tarder.
Bon, je repose la question. C'est quoi le Balato ?
J'y arrive. Une fois par semaine, il y a les soirées Wall Street au Saturne. Tous les volets sont fermés et la clientèle est triée sur le volet, justement. On appelle ça les soirées Wall Street parce que les fonds y circulent aussi vite que dans une salle d'échange de chez Lehman Brothers. C'est un tripot, en gros. Et pour y rester, chaque heure, vous devez payer une taxe à Tonton Mirouche. Ça s'appelle le Balato.
Ah, d'accord. Et pourquoi les clients ne sont pas les mêmes ?
C'est qu'il faut avoir les moyens. Ça va très, très vite. Et en fait, ce sont les voyous, les mafieux qui se retrouvent là, sous l'œil attentif de bon Bonbonne, c'est lui qui raconte le neveu de Mirouche. Et un jour, Bonbonne voit débarquer le Suisse, qui joue les caïds et qui est en fait une petite frappe, arnaqueur à la petite semaine, et qui embarque Bonbonne dans ses aventures. On les suit, ça donne une série d'arnaques, de bras cassés, ça part dans tous les sens, c'est écrit dans un style oral qui sonne très juste, on rigole beaucoup, et à la fin, ça s'intensifie, on rigole un peu moins, mais je vous laisse découvrir, il faudra lire pour savoir.
Voilà, le Balato, signé Jamel Cherigui aux éditions La Grenade, ça a l'air super. Vous m'avez donné envie de le lire.
Il pourrait vendre n'importe quoi, Nicolas Caro.
Ah, ça m'a à tous les coups... Je me fais avoir. J'en ai 550 là sur ma table de chevet. J'ai plus de place.
Il va falloir s'y mettre.
Laurie Cholet-Val, cinéma pour une fois. C'est la belle-mère qui a le beau rôle.
Eh oui, en tant que belle-mère, je suis très heureuse de vous parler de ce film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. Alors, Virginie Efira est éblouissante dans le rôle de Rachel, une quadra sans enfant qui va tomber amoureuse de son professeur de guitare joué par Roche Dizem. Mais elle va aussi fondre sous le charme de sa petite fille de 4 ans. Seulement voilà, Rachel va vite se rendre compte qu'aimer les enfants des autres, c'est surtout s'exposer à souffrir.
Si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
Elle va t'apprendre qu'à cet âge-là, ça ne veut absolument rien dire.
Je dirais que tu fais semblant de ne pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Que je resterai une figurante.
T'exagères.
Une passion absolue pour Virginie Efira. Et c'est un film qui fait voler en éclats les stéréotypes sur la figure de la belle-mère, souvent représentée de façon négative au cinéma. On pense évidemment à la marâtre de Blanche-Neige ou encore celle de Cendrillon et bien d'autres. Et bien Rebecca Zlotowski aborde cette place avec beaucoup de délicatesse. Elle aborde aussi le thème du désir de maternité à un âge crucial, celui de la quarantaine, où les chances de devenir mère diminuent. C'est un film doux et émouvant sur ce désir donc de maternité. Et avec la question aussi de la transmission, vraiment courez le voir dans les salles. Et Virginie Efira, Roche Dizem, ça fonctionne à merveille.
Elle était l'invitée de Culture Média sur Europe 1 hier chez Philippe Bandel. C'est à retrouver en podcast sur votre appli ou europe1.fr. Laurie, vous nous parlez aussi de la ressortie d'un monument du cinéma moderne.
Ben oui. Les créatures bleues, ça vous parle ?
Mais oui.
C'est effectivement le chef-d'œuvre de James Cameron, Avatar, qui ressort en salle aujourd'hui. Avatar, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Plus de 2,8 milliards de dollars récoltés à travers le monde. 9 nominations aux Oscars, dont 3 remportées. Et bien 13 ans après sa sortie, le film ressort donc dans une version totalement inédite et remasterisée. Pour la petite histoire, le réalisateur James Cameron, lui, il imaginait déjà son Avatar dans les années 90.
Oui.
Mais il estimait que la technologie de l'époque n'était pas encore assez avancée. Il a attendu et puis résultat, des
comme
années
Peter
plus tard,
Jackson avec Le Seigneur des Anneaux.
Ouais, exactement. Ouais. Ils avaient de grandes ambitions et il a fini par révolutionner le cinéma en donnant vie à ces êtres bleus qui vivent en harmonie avec leur écosystème luxuriant. Il faut quand même dire que pour l'époque, le film était très précurseur puisqu'il plaçait l'écologie au centre de l'histoire. Bref, c'est l'occasion pour vous de redécouvrir ou découvrir tout simplement ce très grand film en salle. avant d'aller voir cette suite dont on parle depuis tellement longtemps. Avatar 2, la voix de l'eau, qui sortira le 14 décembre dans les salles françaises et le 21 décembre aux États-Unis.
Alors non, je crois que c'est 14 décembre, sortie mondiale, worldwide.
À sortie mondiale,
ouais,
14
mais
décembre.
Ça change, ça bouge.
Il y a trop d'infos différentes sur Internet. Vous êtes mieux renseigné que moi.
Voilà, donc on s'ambiance avec Avatar 1 remasterisé avant Avatar 2, dont évidemment vous nous parlerez aux alentours de Noël.
Bien sûr.
Merci beaucoup Laurie Choleva.
Avec plaisir.
Madame Cinéma sur Europe 1 tous les mercredis. Merci à tous les trois. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, 7h52.
Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Leprince.
La pilule du lendemain, bientôt gratuite pour toutes les femmes sans condition. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles jusqu'à 26 ans aussi. Annonce de François Braun, le ministre de la Santé, dans les colonnes de 20 minutes aujourd'hui. Un rapport sur l'état de santé de la population en France vient d'ailleurs d'être publié ce matin. On apprend par exemple que les 10% de Français les plus pauvres développent 2,8 fois plus souvent un diabète que les 10% les plus riches. Et puis Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Hier, le président a vivement critiqué l'invasion russe en Ukraine. Un retour à l'âge des impérialismes et des colonies, selon lui. Vladimir Poutine doit s'exprimer ce matin dans une allocution télévisée.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Depuis les révélations d'une main courante déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens, la NUPES est prise dans un tourbillon. Entre les tweets de Jean-Luc Mélenchon, la confession publique d'Adrien Quatennens et les déclarations de Sandrine Rousseau.
Oui, en fait, tout est tordu, tout est moche dans cette histoire. À tel point que j'ai même hésité à l'évoquer ce matin, mais là, ça prend de telles proportions qu'il faut y aller. Alors allons-y, on va se plonger dans les eaux troubles de l'Union de la gauche. D'abord, il y a Quatennens, l'homme de la gifle qui déclamait à l'Assemblée sa défense des femmes battues. C'est l'arroseur arrosé, c'est Tartuffe, c'est triste. Et puis il y a Mélenchon, l'éternel donneur de leçons, l'être suprême de la morale publique, qui protège ses amis comme un vulgaire chef de clan. Et puis il y a Sandrine Rousseau qui, le sourire aux lèvres, condamne à tour de bras et qui construit sa carrière step by step sur l'accusation publique. Et puis il y a le climat irrespirable fait de tweets et de soupçons. Et puis la meute numérique, la bave aux lèvres. Et puis il y a la laideur des lynchages. Et puis il y a ce grand déballage qui s'annonce et auquel on n'échappera pas. Alors comment on peut appeler ce spectacle sinistre? J'hésite entre la nausée, j'hésite entre affreux, sale et méchant, ou encore les dieux ont soif, vous savez, ce roman d'Anatole France qui décrit l'ascension d'un jeune révolutionnaire durant la terreur.
Alors, politiquement, les conséquences sont d'ores et déjà impressionnantes.
Hein. Bah oui, c'est un chamboule-tout, vous voulez dire, et ce n'est que le début. Adrien Quatennens, qui devait succéder à Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute le plus brillant des insoumis, Adrien Quatennens, est condamné à la mort politique. Le vert Julien Bayou est lui aussi obligé de se mettre en retrait. Les élus s'écharpent sur les réseaux, les journaux font fuiter les signalements des comités de vertu que ces partis ont créés. L'unité de la gauche, évidemment, est menacée. On aurait pu croire que le PS, les Verts et les Insoumis se diviseraient sur l'Europe, sur la Chine, sur le nucléaire, sur la Russie, sur la sécurité. Mais non, ce sont des affaires privées, des affaires de mœurs qui fracturent la NUPES. Le privé est politique. Vous vous souvenez, c'était un slogan gauchiste des années 70. Le privé est politique et la politique de l'intime est devenue reine dans une certaine gauche. Dans cette gauche, chez ces gens-là, on est trop occupé à relever les signalements pour prendre le temps de soutenir les femmes iraniennes qui affrontent héroïquement en ce moment la police des mœurs. Alors les insoumis sont les grands promoteurs de cette mise sous surveillance de la vie privée. En fait, les libertaires d'hier sont devenus les puritains d'aujourd'hui. Ils voulaient interdire d'interdire, ils ne veulent plus rien laisser passer. Ils sont les premières victimes de leur ivresse morale. Qui sème la transparence, récolte le fanatisme.
Fanatisme, vous n'y allez pas un peu fort quand même, Vincent?
Alors je ne sais pas si vous avez vu Sandrine Rousseau dénoncer Julien Bayou dans l'émission C'est à vous, mais franchement, c'était glaçant. On a assisté à un réquisitoire public sans contradiction, sans aucun élément judiciaire. Comme si les règles élémentaires du droit avaient complètement disparu. Vous savez, ces règles oubliées que sont l'instruction, que sont la proportion, la contradiction, et même cette chose désuète et ringarde que l'on appelle les droits de la défense. Alors évidemment, dans toutes ces histoires, il y a aussi des petites arrière-pensées politiciennes. Même au nom de la pureté, même chez Sandrine Rousseau, il n'y a pas d'acte pur et la loi du soupçon peut être très utile pour se débarrasser de ses rivaux. Mais si l'on prend un peu de hauteur, ce que l'on retrouve dans ces techniques d'accusation publique, dans cette présomption de culpabilité, dans cette volonté de mise à mort sociale et politique, c'est une mécanique révolutionnaire. La preuve, la révolution finit toujours par dévorer ses propres enfants.
Merci Vincent Trémollet de Villers, avec l'ombre de Jacques Brel en arrière-fond. Très joli. À la une du Figaro ce matin, de votre journal. 2027, l'après-Macron aiguise déjà
c'est
les
déjà
ambitions.
Parti, ouais.
Ah, et le président ayant les yeux, dites-vous, déjà lui les yeux sur
2032. On voit loin au Figaro.
Ah oui, on voit très 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 loin. 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, à suivre l'invité d'Europe Matin, juste après le journal. Au micro de Sonia Mabrouk à 8h13, c'est Laurence Rossignol, la vice-présidente du Sénat, députée socialiste de l'Oise, ancienne ministre de François Hollande, qui sera avec nous 7h57. Mercredi 21 septembre, soyez les bienvenus.
7h-9h.
Europe Matin.
Mais où est donc passé Vladimir Poutine? Le chef du Kremlin devait s'adresser aux Russes hier soir. Finalement, ça devait être ce matin 7h. Toujours rien. Hier, Moscou a néanmoins annoncé des référendums d'annexion dans les territoires ukrainiens conquis par les Russes. On va essayer de comprendre avec Nicolas Toneff, le spécialiste russe d'Europe 1, dans un instant. Pendant ce temps-là, aux Nations Unies, on retient son souffle. Emmanuel Macron, hier soir, n'a pas mâché ses mots. Le président français dénonce le retour des impérialismes. Et puis le football, après l'affaire Pogba, à quoi jouent les entourages des joueurs de foot? Europe 1 a enquêté sur l'influence parfois néfaste de certains. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Demande de démission par certains du député Quatennens, mise en retrait de Julien Bayou, critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, rien ne va plus à la NUPES, prise dans le piège de son ivresse morale. On en parle avec une ancienne ministre en charge des droits des femmes, elle est la vice-présidente socialiste du Sénat, Laurence Rossignol, à tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il débute son discours à l'instant même où je vous parle. Vladimir Poutine a tardé à s'exprimer. On attendait sa prise de parole à la télévision russe hier soir. Rien du tout, on l'attendait ce matin à 7h et le voilà maintenant, 8h pile. Le maître du Kremlin vient de prendre la parole après un long suspense. Le monde entier attendait cette prise de parole, notamment à l'ONU. La guerre en Ukraine occupe une grande part des discours de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs s'y exprimer en visioconférence aujourd'hui. Hier, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Le chef de l'État condamne l'invasion russe. Écoutez.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort, le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale? Êtes-vous pour ou contre l'impunité? Je ne conçois aucun ordre international ni paix durable qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. La France se tiendra aux côtés des peuples libres des Nations Unies pour faire face aux conséquences du conflit comme à toutes les inégalités qui l'accroissent, en récusant logique de bloc ou d'alliances exclusives.
Emmanuel Macron aux Nations Unies. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Vladimir Poutine vient de prendre la parole. On attend de savoir véritablement ce qu'il va nous dire. Il est très attendu notamment sur les référendums d'annexion annoncés hier dans les régions de l'Est de l'Ukraine qui ont été conquises par Moscou. Des référendums organisés à la hâte hein, dès vendredi et jusqu'à mardi prochain. Il devrait faire basculer ces régions dans le giron russe. Que faut-il comprendre de ces pseudo-consultations populaires? Qu'est-ce que ça signifie, Nicolas?
Alors en fait, le sens en est contenu dans la question qui sera posée, hein, puisque cette question, ce sera « Approuvez-vous l'entrée de votre région, donc celle de Kherson, Zaporizhia, Luhansk ou Donetsk, au sein de la Russie en tant que sujet de la fédération ?» La traduction, c'est que la Russie va s'agrandir. Hein, c'est un peu l'annonce d'une victoire à destination des Russes. Vous voyez, on gagne, on avance. Et puis à l'adresse des Occidentaux, hein, c'est une sévère mise en garde, atteindre dorénavant ces territoires. Ces bombardements avec les armes que vous livrez en Ukraine reviendra à s'en prendre à l'intégrité territoriale de la fédération et donc non plus seulement de s'en prendre à l'Ukraine, mais aussi de s'en prendre à la Russie. Et cet objectif hein, de mise en pression de l'Occident, c'est un petit peu aussi le début de l'intervention de Poutine ce matin, hein, quand il dit que l'objectif de l'Occident est de détruire la Russie.
Nicolas, pourquoi Vladimir Poutine est-il déjà si sûr du résultat de ces référendums?
Alors c'est assez simple hein, pour les régions indépendantistes de Donetsk et Luhansk, elles sont sous perfusion financière russe depuis 2014. Hein, les emplois sont en grande majorité des emplois de fonctionnaires. Donc si l'on veut garder son salaire, son appartement, eh bien il faut aller voter. Et en général, dans ce genre de scrutin, le votant signe l'enveloppe hein, mise dans l'urne. Donc la nature du bulletin ne fait plus aucun doute. Et puis pour Kherson et Zaporizhia, le contexte, c'est la guerre dans des territoires conquis. Des listes de votants ou d'inscrits datant d'avant avant la fuite des populations et donc ils n'ont plus rien à voir avec la réalité. Et donc cela offre la possibilité de manipuler fréquentation, nombre de votants sans retenue et donc de s'assurer là aussi du résultat.
Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen des questions russes. On suivra bien évidemment cette allocution télévisée de Vladimir Poutine après l'annonce de ces référendums.
Oui, on en reparle dès 8h30 sur Europe 1. Retour en France. Emmanuel Macron, parti à New York, a laissé à Paris une petite bombe à retordement, la réforme des retraites.
Et première question, le gouvernement va-t-il passer en force comme l'a laissé entendre le chef de l'État en incluant sa réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale? Elisabeth Borne n'a pas encore tranché. Le sujet agite la majorité au point même de s'entre-déchirer, Jacques Serret.
Oui, l'exécutif doit faire face aux réticences de certains députés Renaissance. Illustration hier encore, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, la première ministre favorable à une réforme rapide ne parvient pas à convaincre une partie de ses propres troupes. Surtout, l'allié historique des marcheurs, le Modem, 49 députés dans l'hémicycle, a affiché la couleur. Après François Bayrou, c'est Jean-Paul Mattei, le président du groupe centriste, qui est monté au front. La position des députés Mouvement démocrate serait certainement de voter contre cet amendement, insiste-t-il. Selon lui, son groupe ne pourra pas accepter une réforme, petite ou grande, à travers un amendement. Difficile alors pour Elisabeth Borne d'envisager l'éventualité d'inclure la réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La première ministre va recevoir aujourd'hui et demain les chefs de groupes parlementaires, députés et sénateurs. Elle devrait annoncer à l'issue ce qu'elle envisage, mais les dés semblent jetés, à moins d'une volonté de l'exécutif d'aller à contre-courant de sa propre majorité.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Il est 8h07, ils ont parfois tout oublié, leur quotidien, leur famille. En France, 1 million de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer.
Plus de 30 millions dans le monde et toujours aucun traitement efficace. Pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, Europe 1 vous emmène à la rencontre d'un couple qui doit composer au quotidien avec cette pathologie neurodégénérative. François a la mémoire qui flanche, il est déboussolé. Son épouse Gisèle, 79 ans, l'épaule avec patience et courage. Il se confie à Clotilde Dumay.
Les débuts ont été plus difficiles.
Je suis incapable de vous donner les dates de naissance des enfants, de vous donner l'âge. Quelquefois, je ne me souviens plus de leur prénom. Ce n'est pas facile, puis elle a beaucoup trop de choses à faire. Reconnais-le.
Oui, je reconnais que je gère absolument tout.
Oui.
Tout ce qui concerne la maison.
Ça ne m'empêche pas d'aller au marché et de faire des courses
non,
et de faire
sûr.
Des choses comme
oui,
ça.
Avec une liste néanmoins, précise.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui.
Mais quand même, une fois, j'étais perdue. J'ai pris contact très rapidement avec l'association France Alzheimer. L'association organise des groupes de parole. La psychologue qui est avec nous nous donne aussi des clés pour s'en sortir. Mais c'est vrai que ça fait très mal de voir son mari diminuer.
Complètement dépassé par les événements.
Je ne fais pas trop de projets à long terme. J'essaie de continuer à aller au théâtre, au cinéma. Nous continuons à vivre.
Le témoignage touchant de Gisèle et François au micro européen de Clotilde Dumay.
Et en football, un nouveau suspect mis en examen, placé en détention provisoire hier dans l'affaire Paul Pogba.
Ils sont 5 au total, un des proches, dont le propre frère du champion du monde, qui lui aurait réclamé 13 millions d'euros pour services rendus. La plainte de Paul Pogba pour extorsion a brisé l'omerta. Cyril de la Morinerie, vous avez enquêté pour Europe 1 et des histoires d'argent, de menaces et d'arnaques dans le monde du football, il y en a bien d'autres.
Oui, l'affaire Paul Pogba a mis en lumière les dangers qui guettent les stars du ballon rond. Avec son salaire XXL, le footballeur devient une proie. Certains, comme le champion du monde, ont le courage de porter plainte. D'autres non, victimes de la pression de leur entourage qui réclament des sommes folles. Or, à en croire Jean-Pierre Bernès, agent historique, ces pratiques sont de plus en plus courantes dans le milieu.
C'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que le football est une économie importante. Et à partir du moment où c'est une économie forte, voilà, vous attirez des convoitises, des jalousies.
Fabrice Fiorez a lui été victime d'une tentative d'enlèvement. L'ancien joueur du PSG et de l'OM a été agressé dans sa maison par un commando de 3 malfaiteurs cagoulés. Quant à l'attaquant Emmanuel Adebayor, la star du Togo a subi de telles pressions de la part de sa famille qu'il a failli mettre fin à ses jours, comme il l'a raconté à Canal+.
J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et j'appelle ma soeur. Je te promets que mon frère, il est venu ici, j'ai vidé mon compte. Ma grand-soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Je pense au suicide.
L'autre fléau, ce sont ces footballeurs très mal conseillés. C'est le cas de Cédric Angebar, qui a fait une solide carrière en Ligue 1. L'ancien défenseur d'Auxerre a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pendant plusieurs saisons. Il a délégué la gestion de son argent à des amis qui prétendaient être des as de l'immobilier. Aujourd'hui, Cédric Angebar est ruiné.
Il faut se méfier. Moi, j'ai aujourd'hui un dossier de surendettement et pour m'en sortir, sinon j'aurais jamais pu rembourser ce que je pouvais.
Et pour éviter de telles déconvenues, certaines stars se tournent désormais vers des avocats, comme c'est le cas de Kylian Mbappé.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Un mot sur ce discours de Vladimir Poutine avant de refermer cette édition qu'on suit pour vous sur Europe 1. Le président russe qui confirme les référendums d'annexion annoncés hier. Il assure par ailleurs que l'Occident veut, je cite, « détruire la Russie ». C'est l'information de la matinée et on y reviendra à 8h30.
Voilà, Vladimir Poutine qui ajoute lancer une mobilisation des réservistes de l'armée. C'est pas encore la mobilisation générale. Merci Fanny Marceau. On y reviendra évidemment tout au long de la journée sur Europe 1 et notamment dans Europe Midi avec Romain Desarbres. Dans un instant, Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat et l'invitée de Sonia Mabrouk. 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est une ancienne ministre de François Hollande et vice-présidente du Sénat.
Exactement, et ministre notamment en charge du droit des femmes. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
Après l'affaire Quatennens, il y a le cas Bayou. Prenons, si je puis dire, les choses dans l'ordre, dans ce qui est appelé l'affaire Quatennens, affaire au départ privée devenue public et politique. Faut-il attendre que la justice fasse son travail puisqu'une enquête est ouverte ou faut-il que le député Quatennens, qui s'est mis en retrait, démissionne de son mandat à l'Assemblée comme demandé par certains?
Alors, depuis qu'on a lancé avec d'autres féministes engagées en politique le MeToo politique, qui a pour but que les hommes politiques mis en cause dans des affaires de violences sexistes ou sexuelles ne soient pas réinvestis par leur parti, on sait qu'on est sur une ligne de crête un peu subtile, qui est que nous ne pouvons pas nous référer uniquement à la justice, pas simplement parce que la justice est lente, parce que, on le sait, une plainte sur 10 pour viol aboutit à une condamnation, mais aussi parce que notre déontologie politique n'est pas la même que le code pénal. C'est valable pour nous, c'est valable pour vous, les journalistes aussi. Vous avez un code de déontologie qui n'est pas calé sur le code pénal. Donc, on a notre propre déontologie. C'est ce qu'on est en train d'élaborer depuis MeToo. Et on a deux difficultés. D'une part, les procédures que l'on met en œuvre quand les victimes nous saisissent. Et d'autre part, les sanctions que nous mettons en œuvre également.
Mais la place d'Adrien Quatennens, c'est-elle encore dans l'hémicycle? La question est simple.
Je ne le sais pas et je ne sais pas.
Mais si vous vous rendez compte maintenant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui demande de rester silencieux. Certains lui demandent de démissionner et il est dans une sorte de no man's land comme
oui,
ça.
Il
en
est dans un no man's land.
Qui décide?
C'est
normalement,
vrai.
C'est la justice.
Alors non, parce que la justice peut ne pas instruire cette affaire. Le classement
Bien
sans
sûr.
Suite par le procureur est possible. Pour autant, les faits sont là, ils ont été identifiés, et c'est un individu représentant politique et qui, dans une formation politique qui s'inscrit dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui a commis des actes de violence qu'il reconnaît lui-même. Donc, sa formation politique doit d'abord régler son cas. C'est une affaire de représentation de sa formation politique.
C'est d'abord en interne que ça doit se régler,
c'est
avant même la justice de notre pays.
C'est d'abord en interne que ça doit se régler. Parce que si, à l'inverse, on disait eh bien écoutez, il n'y a pas de sanctions pénales. Donc, comme il n'y a pas de sanctions pénales, les individus mis en cause peuvent continuer de caracoler dans leur mandat respectif. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Abad? Il n'y a pas de décision de justice. À un moment donné, après que l'affaire est montée, le gouvernement a considéré que ce qui était avéré comme fait n'était pas compatible avec une fonction de représentation du peuple français.
Mais Laurence Rossignol, c'est quand même vertigineux. Si la justice n'a rien à reprocher à un individu, de quel droit peut-on lui retirer son mandat qui a été donné par le peuple français?
Mais c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je ne demande pas qu'on lui retire son mandat.
Oui, vous ne dites pas non plus que sa place est dans l'hémicycle.
Je pense que sa place consiste aujourd'hui à ne pas s'exposer, ça c'est clair. Mais en tout cas, ce que sa formation politique a décidé, c'est que sa présence, avec des faits qu'il a reconnus, mais c'est toute la différence entre la déontologie et le code pénal que je vous indiquais il y a un instant. Nous avons notre propre déontologie, vous avez votre propre déontologie. Notre déontologie, c'est qu'il n'est pas compatible de commettre des actes contre lesquels nous luttons ensemble, qui sont les violences à l'encontre des femmes, et de continuer de porter la parole d'une formation politique qui prétend les combattre.
Ce qui est à noter, Laurence Rossignol, c'est que la NUPES, dont fait partie, dont vous faites partie, les socialistes, cette NUPES qui est toujours prompte à exiger des démissions quand même, là, dans le cas Quatennens, leur morale maximaliste, elle ne s'applique pas. C'est à géométrie variable.
En fait, dans le cas Quatennens, peut-être d'abord un mot, parce que l'affaire Quatennens, c'est une affaire en fait assez banale. C'est celle d'une jeune femme qui, dans une procédure de séparation difficile, est exposée et subit des violences physiques, une gifle, et psychologiques importantes, le retrait du téléphone, puisque ça consiste quand même à l'isoler. Dans cette affaire, cette femme a fait ce que l'on dit aux femmes de faire. Elle est allée au commissariat raconter ce qu'elle avait vécu. C'est ce que l'on dit aux femmes, porter plainte tout le temps. Elle a déposé une main courante. Donc, déjà, à l'origine, ce n'est pas, comme je l'ai lu d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon, le complot de la malveillance policière et du voyeurisme.
Ça vous a choqué, cette réaction ?
Énormément. C'est-à-dire que, en fait, c'est une stratégie de communication, une stratégie politique, qui consiste d'abord à protéger l'auteur, le transformer en victime, puis ensuite voir ce que ça fait. En fait, on fait d'abord ça, puis après on regarde ce qui remonte dans les médias.
Ah, là, vous pointez du doigt Jean-Luc Mélenchon, qui a d'abord protégé, d'ailleurs on peut dire son protégé, Adrien Quatennens, au mépris de la victime, dites-vous.
En tout cas, au mépris de la clarté politique, au mépris du respect des engagements de sa formation politique. Et puis on ne peut pas systématiquement essayer de transformer les auteurs en victimes. Les auteurs sont les auteurs et la victime en l'espèce, c'est l'épouse d'Adrien Quatennens.
Mais est-ce qu'on l'a écoutée, cette victime, Madame Rossignol ? Qu'est-ce qu'elle
a
dit ?
Je ne sais pas.
Attendez, elle a dit quelque chose d'important. Elle a déposé une main courante, mais elle ne voulait pas, l'épouse d'Adrien Quatennens, que ça aille plus loin. Le parquet a ouvert une enquête, mais on oublie ce qu'elle souhaitait. Ça ne compte pas ce qu'elle a dit.
Écoutez, quand on dépose une main courante, on s'expose à ce que le parquet ouvre une enquête. Et c'est d'ailleurs une belle avancée. C'est ce que nous avons demandé toujours au procureur et au commissariat. Quand vous avez affaire à des faits de violence faites aux femmes qui vous sont signalés, ne demandez pas à la victime si elle veut que l'affaire soit instruite. Instruisez. Une enquête.
C'est la puissance publique
qui protège les femmes.
Mais on est interpellé ce matin, Laurence Rossignol. On dit qu'il faut écouter la parole des femmes, des victimes, et on va en parler. Mais quand l'épouse d'Adrien Quatennens ne veut pas que ça aille plus loin, on ne l'écoute pas.
Elle a fait une main courante, c'est-à-dire qu'elle a indiqué à la puissance publique, en l'espèce la police et la justice, qu'elle avait été victime de violence. Et puis maintenant, l'affaire les faits sont eux-mêmes indiqués par l'auteur des faits. Mais moi, je vous dis, l'affaire Quatennens, c'était au départ une affaire privée, qui concerne un homme public et qui a des conséquences sur sa vie publique.
Mais qui en a fait une affaire politique ?
Mais ça ne devient une affaire politique qu'à partir du moment où Adrien Quatennens se met en retrait et où on voit déferler sur les réseaux sociaux une avalanche de tweets qui sont tous plus laudatifs à son égard. Voilà, abnégation, courage, etc. Non, c'est pas un héros. C'est un homme politique qui a fait ce qu'il devait faire dans la situation dans laquelle il est.
Oui,
voilà.
Madame Rossignol, ce n'est pas un héros, mais il y a une justice. On est quand même frappé. En réalité, on se pose la question de ces tribunaux internes que vous êtes tous en train d'ériger, qui est une sorte de justice parallèle par rapport à la justice de notre pays.
On n'érige pas de tribunaux internes. On exige que les représentants des formations politiques aient un mode de vie conforme avec ce qu'ils défendent pour la société.
Mais qui est l'arbitre, de cette conformité ? Qui, un jour, demain, va dire « Non, mais Madame Rossignol n'aurait pas dû... »
Mais les partis politiques sont les arbitres eux-mêmes. Je vous rappelle que...
Mais c'est vertigineux, ça
peut
aller très loin.
Non, c'est pas vertigineux. Je vous rappelle que les partis politiques sont libres de désigner leurs représentants en leur sein. Ce n'est pas... Après, les électeurs votent. Mais la désignation, c'est de la totale liberté des partis politiques. Ils choisissent leurs critères. Si un parti politique décidait de continuer de désigner des hommes ou des femmes mis en cause dans des affaires de malversation financière, ça vous choquerait terriblement. Et même si l'enquête n'est pas finie, et même si la personne n'a pas été condamnée. Pourquoi ce qui choquerait pour des malversations financières nous paraîtrait être scandaleux lorsqu'il s'agit de violences physiques ou sexuelles à l'égard des femmes ? Donc oui, nous revendiquons, nous partis politiques, notre liberté de choix d'investiture de nos représentants.
Dans l'affaire Quatennens, il y a l'ouverture d'une enquête. Nous parlons à présent d'un autre membre de la NUPES qui est dans la tourmente, c'est Julien Bayou. Et je voudrais préciser, j'allais dire pas
par honnêteté qu'il n'y a ni plainte ni main courante. Et pourtant, il y a eu des accusations relayées contre lui par Sandrine Rousseau qui ont abouti à une sorte de mise en retrait de sa part de la direction du parti Europe Écologie Les Verts. D'abord, Laurence Rossignol, sur la méthode. Est-ce que vous approuvez les méthodes de Sandrine Rousseau ?
Écoutez, je n'ai pas discuté sur toutes les méthodes de Sandrine Rousseau. En l'espèce, je ne sais rien de l'affaire Bayou. C'est-à-dire, je ne connais pas les faits qui lui sont reprochés, je ne connais pas les faits qui ont amené à son retrait. Et je ne sais pas pourquoi, pourquoi sans que les faits soient indiqués, Julien Bayou a été balancé devant l'opinion publique.
Donc, vous m'avez répondu sur la méthode.
Non, mais je vais dire une chose, c'est que la lutte contre les violences faites aux femmes dans les partis politiques, qui est particulièrement difficile parce que les partis politiques se protègent, parce que la protection du parti, la protection du chef passe souvent avant la cohérence.
Mais alors attendez,
laissez-moi finir.
S'il les protège, pourtant il faut des tribunaux internes à l'intérieur de ces partis. Il y a quelque chose de moins contradictoire.
Mais justement, c'est tout le combat que nous menons pour que les partis politiques cessent de fonctionner comme l'Église, par exemple, en autoprotection, d'abord l'institution et ensuite la cohérence, et que dans les partis politiques, aujourd'hui, on ne choisisse plus la protection du parti ou du chef ou de l'appareil, mais qu'on choisisse la cohérence avec notre projet de société.
Quitte à le balancer dans les médias.
J'en viens à Sandrine Rousseau et à cette affaire Bayou. La lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas le baltrap. Voilà, ce n'est pas le baltrap politique. Ce n'est pas tous les jours on en flingue un. Il faut obéir à des règles et il faut ériger ces règles. Pour moi, il y en a trois qui sont importantes. Première règle, il faut une enquête. Deuxième règle,
une enquête de qui ?
Interne. Je l'ai fait, une enquête interne.
Madame Rossignol, attendez. Une enquête menée par qui ? Des enquêteurs ?
Oui, mais il y a des commissions dans les partis. Moi, je l'ai fait.
Mais vous avez vu à quoi ça aboutit ces commissions dans l'affaire Tahabouaf, par exemple ?
Enfin, Tahabouaf, la commission a abouti à ce qu'au bout du compte, il a été désinvesti. Après, il y a une manipulation qui a consisté à essayer de faire croire qu'il n'était pas pour la bonne raison.
Des accusations de racisme.
Mais il a été désinvesti. Il faut des enquêtes internes. Ces enquêtes doivent respecter le principe du contradictoire et le principe de la collégialité. C'est indispensable. Je l'ai fait, écoutez-moi, au Parti Socialiste, nous avons eu, je crois que c'était aux dernières municipales, deux cas comme ça, d'hommes qui étaient préinvestis d'un certain point de vue et pour lesquels nous savions ou nous avons su en cours de route qu'il y avait des faits qui relevaient de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans lesquels ils étaient mis en cause, soit directement, soit par complaisance à l'égard des auteurs. Nous avons enquêté, je suis allée avec des collègues.
Mais vous entendez le mot enquêter ?
Mais bien sûr.
Avec une enquête, mais quand on désigne un candidat, qui se substitue à la justice ?
Écoutez-moi,
c'est une vraie question très importante.
Quand on désigne un candidat,
qui êtes-vous pour
reviens.
Enquêter ?
Je reviens là-dessus. Je suis membre d'un parti politique qui est libre de choisir ses candidats. Quand on désigne nos candidats aux élections législatives, on enquête sur ces candidats. C'est-à-dire, on enquête, c'est pas, on ne vient pas.
Vous enquêtez jusqu'où ? Jusqu'à la chambre à coucher ?
Mais qui vous parle de chambre à coucher ?
Mais je ne sais pas. Quelle est la limite d'une enquête ?
Il n'y a aucune.
Il y a des affaires conjugales. Est-ce qu'il faut rentrer dans les affaires de couple ?
Mais les affaires de couple ne posent aucun problème à personne dès lors qu'elles ne relèvent pas des violences, du harcèlement. Et d'infractions
à la déontologie. Mais pour le savoir, il faut rentrer dans la
mais
maison
non,
et le savoir.
Mais vous savez, les faits remontent. Ce qui compte, c'est que les victimes parlent et que nous les entendions et que nous entendions aussi les auteurs mis en cause.
Mais pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance dans ces instances ? Vous êtes de parti pris.
Mais si les gens ne veulent pas faire confiance à leur parti politique, ils le quittent.
Vous protégez,
écoutez-moi, personne n'est obligé.
On peut protéger son parti quand on peut protéger...
Mais c'est toute la bataille que nous menons. Et c'est justement celle qui passe par ces enquêtes, qui passe par la vérification de la cohérence de nos candidats, de nos représentants, avec ce que le projet de société que nous défendons. Mais personne n'est obligé d'être membre d'un parti politique. Quand on rentre dans un parti politique, on en accepte les règles, l'éthique et la déontologie.
Alors l'éthique, quand Sandrine Rousseau fait cela, elle est dans une croisade politique ?
Je ne sais pas dans quoi elle est. En tout cas, je crois que j'ai été assez claire. C'est pour que notre combat contre les violences sexistes et sexuelles, pour que les partis politiques ne cessent de protéger les auteurs, passe par des procédures claires. Et d'ailleurs, je pense que nous serions bien inspirés de réfléchir ensemble.
Et ensemble, avec qui ? Vous allez vous asseoir demain. Alors, autour de cette table, imaginons une table dans ce studio, Madame Laurence Rossignol, Madame Sandrine Rousseau, dont vous venez de dénoncer les méthodes, parce que ça, c'est le beau mouvement de la NUPES, Monsieur Olivier Faure, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, et vous allez décider de quoi ? Qui va être l'enquêteur demain en chef ?
Dans ces partis, il y a des militantes féministes qui sont engagées. Et regardez bien aujourd'hui ce qui se passe à LFI, et ce que j'ai entendu aussi chez les écologistes. Il y a des femmes et des hommes, d'ailleurs, d'ailleurs qui les soutiennent, qui revendiquent des procédures et des méthodes. Nous n'avons pas le choix. Soit, écoutez, je vois bien que vous essayez de trouver les contradictions dans ce que je vous explique. D'abord, oui, c'est vrai, ce que nous faisons est empirique. C'est incontestablement empirique, parce que c'est un bouleversement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un bouleversement pour les partis politiques, c'est un bouleversement dans la presse. Il y a un certain nombre d'affaires qui concernent des journalistes et qui n'ont pas été si simples à faire monter et à faire sortir. Et, tout le monde a félicité les victimes de leur courage. C'est des affaires aussi dans l'Église. Très important.
Il faut croire d'emblée les victimes. Est-ce que vous dites ce matin, ça m'intéresse Laurence Rossignol, votre manière de penser, est-ce que vous dites aux femmes, on vous croit, ou est-ce que vous dites, et c'est une nuance importante, on vous écoute, et puis on va voir ce que va faire la justice.
On vous écoute, et on vous écoute, bien entendu. Et il y a une présomption de crédibilité, jusqu'à ce que cette présomption tombe, parce qu'il y a des preuves qu'en fait, elle n'était pas crédible. C'est pour ça qu'il faut enquêter. Mais vraiment, nous vivons les uns et les autres dans des mondes qui ne sont pas uniquement soumis à la justice. Nous avons nos propres règles. Vous, les journalistes.
Et nous. Il y a la justice au-dessus.
Pas forcément.
Pas forcément dans notre pays.
Écoute, pas forcément. Je connais des journalistes, des hommes de médias qui, mis en cause dans des affaires qui n'ont pas été réglées devant la justice, ont été écartés de leur fonction, parce qu'ils étaient mis en cause et parce que leurs collègues et leur direction ont considéré que les faits étaient suffisamment établis. C'est la question, c'est est-ce que les faits sont établis ? Et dans au moins deux affaires, il a été considéré que les faits étaient établis. La justice n'est pas passée, voire même la justice, je pense à une affaire très particulière, dans laquelle la justice même a considéré qu'il y avait prescription.
On va conclure, Laurence Rossignol.
Tout ça est empirique,
nous
travaillons.
Vous êtes une féministe ?
Oui.
Est-ce qu'on peut parler, en dire un mot quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de tous ces sujets, pour conclure, sur les femmes iraniennes.
Oui. J'espérais que vous alliez m'en parler.
Vous avez remarqué que beaucoup de féministes et néo-féministes n'en parlent pas ?
Écoutez, moi je suis une féministe, j'en ai parlé, elles ont tout mon soutien, leur mouvement est remarquable, et ça nous dit une chose, c'est que les mouvements des femmes contre les dictateurs, les fous de Dieu, et le mouvement qui consiste pour elles à ôter leur foulard, est un mouvement exemplaires. Elles sont d'un courage exceptionnel et les hommes qui sont avec elles aussi. Et peut-être ce sont les femmes qui vont faire trembler le régime des Mollahs.
Merci Laurence Rossignol d'avoir été notre invitée ce matin.
Merci Laurence Rossignol. Merci Sonia. Dans un instant, restez avec nous. Gaspard Proust, c'est la signature Europe 1 du mercredi. À tout de suite.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32, l'essentiel de l'actualité sur Europe 1. Christophe Lamar.
Une étape de plus dans la guerre en Ukraine après le référendum d'annexion annoncé hier et confirmé il y a quelques minutes par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin annonce également la mobilisation partielle des réservistes de l'armée. Il prévient les Occidentaux. Il utilisera toutes les armes nécessaires si l'intégrité de la Russie est menacée. On l'écoute.
Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации.
Pour défendre notre pays, il est nécessaire de mettre en place une mobilisation partielle de la population. Sont concernés seulement les citoyens qui sont actuellement dans la réserve et surtout ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente. Seulement eux seront soumis à la conscription. J'ajoute que si l'intégrité de la Russie est menacée, nous utiliserons les armes nécessaires.
Le président Vladimir Poutine, intervention devant la télévision russe il y a moins d'une demi-heure. Pas de réaction pour l'instant des capitales occidentales. L'Ukraine, de son côté, accuse à nouveau Moscou d'avoir bombardé le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia. En Iran, la colère de la rue ne retombe pas après la mort de Masha, jeune femme arrêtée par la police religieuse. Manifestation au Kurdistan et dans plusieurs grandes villes, dont la capitale, Téhéran. Rassemblement réprimé sévèrement par le régime qui ont fait au moins 3 morts. L'accès à la pilule du lendemain, bientôt gratuit pour les femmes, sans ordonnance et sans condition d'âge. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également jusqu'à 26 ans, annonce du ministre de la Santé François Braun. La NUPES en plein chaos face à la multiplication des accusations de violences sexistes. Après le retrait d'Adrien Quatennin, celle de la direction de la France Insoumise, c'est au tour de Julien Bayou d'abandonner la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts est visé par une enquête interne après les confessions de son ex-compagne. La nature exacte des faits qui lui sont reprochés reste inconnue à ce stade. Roger Federer fera ses adieux au circuit vendredi à l'occasion de la Laver Cup, tournoi exhibition dont il est l'un des fondateurs. Le Suisse s'alignera en double mais ne jouera pas en simple. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem souhaite rester dans le monde du tennis pendant sa retraite.
Merci mon cher Christophe, le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous.
Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Dadier, profitons du soleil. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup.
Si je vous dis d'en profiter, c'est que ça ne va pas durer. Le temps va changer. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, mais c'est vrai qu'à partir de ce week-end, il y aura moins de soleil. Puis surtout, il y a un gros épisode pluvieux qui arrive sur le sud de la France. On a quelques nuages qui traînent au nord de la Seine, entre la Belgique, la frontière allemande. Ça va se dissiper au fil des heures. Le soleil domine sur une grande partie de la France. Cet après-midi, c'est encore un petit peu plus nuageux sur la moitié nord, dans le sud. Le Mistral se calme cet après-midi, mais attention, les nuages arrivent sur la Provence, la Corse, la Côte d'Azur, avec même quelques gouttes. 18 à Belfort, 19 à Saint-Étienne et Dunkerque, 20 degrés à Paris, 22 à La Rochelle et à Brest, 26 à Marseille et jusqu'à 28 degrés pour Cahors.
Merci Anis, à 8h35.
7h, 9h, Europe Matin.
L'heure des signatures, Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Du journal L'Opinion, vous nous parlez de l'Iran dans un instant. Mais d'abord, bonjour Gaspard Proust.
Bonjour.
Bah dis donc, oui, il faut réagir quand
oui, non, bah, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la phrase.
Vous devez être content, Gaspard. On a finalement enterré la reine d'Angleterre.
Bah oui, comme dirait le vendeur du McDo, un client qui cherche son jouet Happy Meal, c'est dans la boîte. Non, mais ça fait du bien quand ça s'arrête. Moi, en tant qu'humoriste, là vraiment, on commence à avoir honte. Ça fait quand même 10 jours qu'on ronge la hanche artificielle de la Queen pour arracher un sourire.
Donc vous avez au fond honte.
Oui, bah oui, mais bon, après, elle l'a cherché. J'ai vu les chiffres, ça a quand même coûté 35 millions aux Anglais pour faire défiler une boîte en chaîne sur des départements. Moi, je voulais faire un devis avec les déménageurs bretons, c'est pas du tout la même. Mais à un moment, il faut être pragmatique. Je veux dire, sachant que mamie, la tout en camon, fish and chips, là, elle devait peser autour des 40 kilos, ça fait presque 1 million le kilogramme de bidoche à bigoudi.
Oh.
Non mais, excusez-moi, après le bœuf de Kobe, la bigue de Windsor, moi je veux bien que la viande maturée ce soit toujours un peu plus chère, mais il y a quand même des limites,
vous
voyez.
Franchement, vous êtes monstrueux, c'est horrible. Il n'y a pas une image qui vous a un peu marqué de cette cérémonie?
Mais si, bien sûr, c'est moi j'ai un cœur, et moi celui qui m'a le plus touché dans cette cérémonie, c'est Joe Biden.
Ah.
Bah ouais, notre Joe le taxi ricain, enfin, vu son état, plutôt Joe sous le taxi. Et il était là, il a regardé le cercueil de la reine, il s'est dit « Ah, elle va quand même nous manquer, Diana Ross ». Puis après, il est venu voir Macron, il a regardé Brigitte, s'est tourné vers Manu et lui a dit « Vous avez tellement de chance que votre maman soit toujours là ». Mais bon, ça c'est tout Joby Joba, ça c'est... Et nous, en France, ben, on ne vivra jamais ça.
Vous voulez dire qu'on n'aura plus jamais de roi, de reine en France?
Mais c'est impossible. Je vous rappelle quand même que les tombeaux des rois de France se trouvent en Seine-Saint-Denis. Vous imaginez le bordel si on fait un convoi pour enterrer le roi là-bas? Pensez vraiment que la terre entière a envie de voir les Dalton faire des roues arrière sur le cercueil? Il faut être réaliste, au bout de 5 minutes, le convoi il va se faire braquer, dans 3 jours vous trouvez le slip du roi sur le bon coin, enfin, à un moment. Mais le pire, Dimitri, c'est qu'on parle de la reine, mais on oublie les autres victimes de l'actualité, et c'est ça le drame. Vous voyez.
Ah voilà, vous donc voulez parler d'Adrien Quatennens, c'est de la main courante déposée par sa femme parce qu'il lui aurait mis une gifle. Hein.
Ben moi j'y crois pas, attendez, un mec de gauche gifler une femme? Un CRS ou un flic, oui, évidemment. Mais là, à mon avis, ils ont dû faire des jeux de rôle sexuels qui ont un peu dérapé.
Ah bon, vous croyez ça?
Ah bah c'est l'intimité du couple, c'est compliqué. Hein, ça, on sait jamais. Il suffit que sa nana soit pointée en porte-jartelle et lui a balancé « Je vais te faire courir, bouquin !» Et là, le gars, vous voyez, Adrien, c'est insensible. D'ailleurs, Mélenchon a tout de suite réagi.
Ah oui, alors il a déclaré sur Twitter « Mon affection pour Adrien ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. »
Putain, c'est beau. Mélenchon, c'est le Phèdre bolchevique. C'est... Adrien, je t'affectionne, mais Céline, je ne te hais point. Vous voyez, lui, dès qu'il écrit un truc sur Twitter, tu sais que la liberté guidant le peuple vient de s'enfoncer 10 cm dans une fosse sceptique. C'est merveilleux. Hein. Mais bon, après, heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles quand même.
Alors, vous voulez parler du déplacement des migrants dans les communes qui se vident? Enfin, le placement, hein, plus exactement. Ouais.
Quelle idée de génie. Ah. Non, mais on va accueillir des gens en leur disant, tu sais quoi? Pour pas te faire perdre ton envie d'aller voir ailleurs, on va te foutre dans un endroit où personne n'a envie d'habiter. Voyez. Comme ça, à un moment, le gars, il va se dire « Ah, en fait, c'est sympa, Kaboul by night. »
Vous avez l'air de regretter cet accueil.
Bah, évidemment, vous savez, moi, en tant que lanceur d'alerte, ça me dérange pas d'accueillir des migrants tant que ça reste à plus de 10 000 bornes de chez moi. Et on est tous pareils. Hein. Et puis, on se prive d'un truc. Vous imaginez les futures séquences de L'amour est dans le pré d'ici 20 ans? Nous rencontrons maintenant Ahmed, réfugié afghan qui élève des chèvres et de l'opium thérapeutique dans le Larzac. Ce grand romantique au cœur tendre rêve de fonder une famille nombreuse. Pour lui, ce sera déjà la quatrième. Ce cœur original nous a immédiatement touchés par sa spontanéité lorsque, lors du premier week-end passé avec ses 3 prédentantes, il nous a avoué « Je lis garde les 3 femmes ». Sur ces belles paroles, on est en retard.
Merci Gaspard Proust. Vous êtes horrible. Mais c'est pour ça qu'on vous aime bien. 8h39, alors vous, à la semaine prochaine, Gaspard. Restez là. On va parler de l'Iran avec Emmanuel Ducrot. J'ai envie que vous entendiez ça. Emmanuel, écoutez, vous avez tort. Du journal L'Opinion, et oui, ça bouge en Iran, manif dans tout le pays après la mort de Amini, jeune femme rouée de coups par la police pour un voile mal mis, semble-t-il. Les Iraniennes sont aux avant-postes des manifs. Certaines prennent de gros risques en retirant leur hijab. Vous voulez revenir sur un mouvement qui est né en Iran il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, animé par des femmes iraniennes. Et ça met une partie des féministes occidentales devant leurs contradictions.
Le mouvement s'appelle « Let us talk », « Laissez-nous parler ». Et il est né à la fin de l'année 2021. Une des meneuses, c'est une journaliste, une féministe iranienne en exil aux États-Unis, Mahsa Alinejad, un sacré caractère, hein, une chevelure magnifique, bouclée, folle, un manifeste à elle toute seule. Le mouvement est né d'une controverse au Canada. Après l'utilisation par un journal médical d'une photo de petite fille voilée, un pédiatre iranien, un homme, avait alors écrit « Il est devenu libéral de voir le hijab comme un symbole de diversité et d'inclusion ». Le hijab, le niqab et la burqa sont des instruments d'oppression pour des millions de filles et de femmes dans le monde qui ne sont pas autorisées à faire un choix. Après cela, en rebondissant sur cette controverse, le 28 décembre, Mahsa Alinejad avait tweeté ce qui avait lancé le mouvement. En Iran, on m'a dit que si je ne portais pas le hijab, je serais renvoyée de l'école, emprisonnée, fouettée, battue et expulsée de mon pays. En Occident, on me dit que raconter mon histoire provoquera de l'islamophobie. Je suis une femme du Moyen-Orient, j'ai peur de l'idéologie islamique, laissez-nous parler.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, Mahsa Alinejad ?
Elle veut dire qu'elle en a marre. Elle sait ce que peut valoir à une femme iranienne le fait d'enlever son voile, de voir des féministes occidentales le justifier, le banaliser comme une mini-jupe, un débardeur ou un serre-tête. On a vraiment entendu ça ici. Elle n'en peut plus qu'on lui explique à elle, dont la vie est menacée, même à New York récemment, ce qu'elle doit dire et penser du voile. Un ras-le-bol du féminisme confortable, tellement occupé à voir la domination patriarcale dans une entrecôte sur un barbecue qu'il ne la voit plus quand elle est évidente, quotidienne et qu'elle broie des vies. Il y a un contresens fondamental, nous crie Mahsa Alinejad, à le défendre ce hijab. Celles qui le défendent n'auront jamais à en souffrir. Elle déconsidère un combat pour la liberté qui peut valoir la mort à celles qui le mènent.
Alors est-ce que ce mouvement a pris ?
Oui, comme une sorte de MeToo iranien, des centaines d'histoires partagées sur Twitter, des colères contre certaines féministes occidentales qui martèlent avec naïveté ou condescendance, le hijab est un choix. Laissez-nous parler, disent toutes ces femmes.
Voilà, d'où le « Let us talk », hein, le nom du mouvement. Alors que les Iraniennes manifestent au péril de leur vie, ça résonne particulièrement. Hein.
C'est un rappel sévère qui met les bons sentiments au pied du mur. Et ce qui se passe en Iran nous oblige. Nous oblige à passer en revue chacun des propos qui ont été tenus ici, en terre de liberté, sur le hijab. Qui oserait aujourd'hui asséner aux femmes de Téhéran qui le brûlent au péril de leur vie que le hijab est un choix ? Quel choix ? Celui de se soumettre ou de mourir ? Qui aurait le front de répéter aux Iraniennes qui risquent leur peau pour aller tête nue les propos lénifiants tenus sur des plateaux télé par une égérie écoféministe ? Le voile est un embellissement, une insulte à celles qui ne peuvent opter que pour cette beauté-là ou pour être jetées en prison ou mourir sous les coups de la police des mœurs iraniennes. Silence. Silence. Ce féminisme-là doit se taire. Il ne doit pas seulement laisser les Iraniennes parler, il doit les écouter. Écoutez Mahsa Alinejad quand elle dit « Soyez notre voix, nous avons besoin de l'appui du monde entier contre ce régime sanguinaire.
Ouais, » et cette même Mahsa Alinejad, c'est elle qui a lancé en 2014 hein, ce mouvement d'enlever son voile, le mettre au bout d'un morceau de bois. Est-ce qu'elles font actuellement hein, les femmes iraniennes ? Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour votre regard. On va vous retrouver demain matin. Dans un instant, le club de la presse européen. Tiens, vous faisiez quoi il y a 30 ans ? Vous vous rappelez ou pas ? Non, vous étiez toute petite.
J'étais au bac à sable.
Bah voilà, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Est-ce qu'on vote oui ? Est-ce qu'on vote non au traité de Maastricht ? On va en parler dans un instant avec Louis Osalter et Mathieu Bock-Côté. À tout de suite.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h45, depuis quelques jours, les affaires pleuvent sur la gauche. Alors après la gifle de Quatennens chez la France Insoumise, Julien Bayou lui s'est mis en réserve de ses fonctions de secrétaire national des écologistes le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. Mediapart révèle aussi des accusations portées de l'existence d'un signalement auprès de la cellule de la France Insoumise sur le député Thomas Porte, qui fut porte-parole de Sandrine Rousseau pendant la primaire écologiste. Voilà, embarras à gauche, après aussi les Cabouaf, Coquerel, etc. Alors, dans des partis où l'on tient des discours féministes avancés. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Si vous êtes sociologue, vous êtes essayiste, je vous souhaite bonne fête, c'est la Saint-Mathieu aujourd'hui.
Merci.
Vous le saviez ?
Bien sûr.
Voilà. Louis Osalter. je pensais jamais. Louis Alter est avec nous aussi. Bonjour Louis.
Bonjour Dimitri.
De Marianne, on va parler de Maastricht aussi également. Marianne, Maastricht, le piège de Maastricht qui est à la une de Marianne cette semaine. C'est en kiosque jusqu'à ce soir. Donc dépêchez-vous d'aller l'acheter.
Vite, vite, vite.
18 pages, très intéressant. Notamment, on revit les événements de 92. Il y a plein de choses que j'avais oubliées en relisant le papier. Mais d'abord, cette affaire à gauche, quand l'intime devient de la politique, l'intime a toujours été de la politique à gauche, mais là, ça devient central. Il y a cette jolie phrase de Caroline Fourest qui est en une de l'opinion ce matin, de la morale que l'on proclame dépend une forme d'exigence personnelle. Bon, le populaire dirait fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est un peu la leçon à retenir de ces affaires à la NUPES, Mathieu Bocoté.
Oui, ben, ce qui est fascinant, en fait, c'est que ce sont les discours tenus en public et ensuite ce qui est révélé ensuite d'une manière ou de l'autre, avec ce point d'interrogation qui est pourtant nécessaire. Qu'est-ce qui est révélé exactement? Alors, pour Adrien Quatennens, c'est assez clair en tant que tel. Une forme d'ailleurs d'autoconfession publique dans l'espoir de cadrer le récit à son avantage. Donc, c'est toujours la même chose à gauche. Rappelez-vous avec Éric Coquerel il y a quelques mois. Donc, il plaide de soi. D'abord et avant tout, il explique pourquoi on a raison d'avoir ce logiciel aujourd'hui qui dit le privé et politique, qu'il faut étendre sans cesse la définition des violences sexuelles et sexistes, pour reprendre le vocabulaire. Ensuite, il explique pourquoi ça ne s'applique pas à lui. On se rappelle de Coquerel. Et à la fin, il reconduit son adhésion à l'idéologie dominante. Dans le cas de Quatennens, c'est plus compliqué. Il dit « Oui, je suis coupable de ce qu'on me reproche, mais je cherche à proposer un récit, un contexte qui me déculpabilise quand même un peu. » Dans le cas de Bayou, c'est plus compliqué, si je peux me permettre, parce que ce qu'on sait pour l'instant, c'est le rapport de la camarade Rousseau qui nous dit, Sandrine Rousseau, fondamentalement, il a fait des actions de nature à briser la santé morale d'une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça rentre pas dans la même catégorie qu'une gifle, qu'une baffe ou tout ça. S'il s'agit d'une rupture qui s'est mal passée, mais où il n'y a pas de violence, où il n'y a rien de tout ça. Mm-hmm. Mais depuis quand une rupture qui se passe mal doit se retrouver devant la commission des affaires internes d'un parti politique? Depuis quand une rupture qui se passe mal doit se retrouver devant les médias? Tant qu'on n'en sait pas davantage, il y a quelque chose qui relève de l'exhibitionnisme et du voyeurisme et de l'esprit policier.
Vous avez raison. Alors, quelle est la frontière de la violence, en tout cas celle qui doit être traduite en justice? Il y a aussi à qui revient la charge d'examiner ces dossiers? Est-ce que ce sont des commissions internes au parti? Est-ce que c'est la justice? Il y a cette question que Clémentine Autain se pose à haute voix hier en conférence de presse. Elle dit peut-être faudrait-il externaliser les cellules des partis. Ah ben, je croyais que ces cellules avaient été créées parce qu'on trouvait que la justice en matière de violence sexuelle ne fonctionnait pas. Et on renvoyait ça à l'affaire PPDA, etc. etc. Louis Alter.
Bah, typiquement, la cellule qui concerne la France insoumise, il avait été question au début de l'externaliser et finalement, ça n'a pas été le cas. Mmh. Et on voit d'ailleurs les traitements à géométrie variable des affaires dans ce parti selon la proximité de la personne concernée avec Jean-Luc Mélenchon, pour être clair, en tout cas avec l'état-major, le noyau dur de Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux phénomènes différents. Je pense que dans l'affaire Quatennens, le phénomène flagrant, c'est l'effet citadelle assiégée d'un parti qui fonctionne en fait un petit peu comme un soviet. C'est-à-dire que quand une affaire concerne l'un des membres les plus haut placés de la France insoumise, on a vu dimanche, lors de la révélation de cette affaire et la reconnaissance par Adrien Quatennens qu'il avait donné une gifle à son épouse tout en précisant tout le contexte autour, on a vu en fait le haut du parti et notamment Jean-Luc Mélenchon
faire bloc autour
du camarade parce qu'il faut absolument protéger le camarade et cela passe sur toute considération.
Oui. Et ça n'a pas tenu.
Alors qu'avec Éric Coquerel, ça n'a pas tenu parce qu'il y a des énormes tension en interne et qu'en plus, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Coquerel qui a contesté de manière véhémente les faits, là Adrien Quatennens a reconnu qu'il y avait eu un fait de violence. Et malgré ça, donc on voit ce premier réflexe qui est de se recroqueviller, d'organiser un peu le récit où il y a un « eux » contre « nous » et donc d'expliquer, comme le premier tweet de Mélenchon le faisait, que c'est d'abord de la faute des policiers, des médias, du système et qu'il y aurait un complot extérieur finalement pour déstabiliser le parti en tant que tel et la cause. Donc on a vu ce premier réflexe qui risque effectivement, qui est vraiment consubstantiel à la France insoumise, mais qui risque de ne pas tenir à cause des tensions en interne et de cette contradiction éminente entre la protection du camarade et une cause érigée comme prioritaire qui est la lutte contre les violences faites aux femmes.
Mais si on prend un peu de recul, de hauteur, Mathieu Bocoté, on sait que la NUPES voulait attaquer la rentrée sur le front social, les retraites, etc., le pouvoir d'achat. Est-ce qu'avec cette affaire-là, qui tombe de manière un peu inopinée, la NUPES rate-t-elle sa rentrée ou au contraire elle
elle installe une problématique révolutionnaire dans le débat public.
Je crois qu'il y a une logique révolutionnaire chez plusieurs personnes à la NUPES, qui s'applique à tous les domaines d'ailleurs, les questions identitaires ou tout ce qu'on, le décolonialisme, aujourd'hui une logique effectivement révolutionnaire. On le voit aussi sur les questions justement des violences sexuelles et sexistes. Hein. Il faudrait questionner cette expression, si je peux me permettre, parce que ça rassemble une série de phénomènes très variés sous une même catégorie idéologique et politique. Je pense que c'est une catégorie à questionner. Cela dit, ils ratent leur rentrée manifestement parce que c'est l'éclatement de ce parti entre la morale proclamée et la morale suivie. Et c'est aussi une tension, on le voit, entre Jean-Luc Mélenchon qui a le réflexe sicilien, c'est-à-dire je défends le clan, je défends le gang. Et de l'autre côté, ceux qui nous disent ben, c'est l'heure du procès, ben, qui faut-il reconnaître comme le véritable leader de cette gauche? Il y a un côté implosion devant nous qui est assez fascinant à regarder et qui est assez triste en quelque sorte parce que ça vient... ça accélère la décomposition idéologique d'un courant qui pourrait probablement dire autre chose dans la vie publique que cette espèce de procès à répétition.
Alors, dans l'actualité également, enfin c'est plutôt un souvenir, un anniversaire, c'est à la une de Marianne cette semaine, il y a 30 ans, le piège de Maastricht, titrez-vous. Alors, il y a évidemment un parti pris souverainiste, mais bon, c'est la touche Marianne, dirons-nous. Louis Osalter, 30 ans, il y a 30 ans, que faisiez-vous? Pour qui avez-vous voté? Pour ceux qui avaient leur carte d'électeur à l'époque. Alors, il y a un dossier très intéressant, notamment un long papier qui rappelle ce qui se passait en 1992, avant la mise en place, pourquoi on va au référendum, comment ça se passe dans les jours, les semaines qui précèdent, le jour du vote, l'annonce du cancer, l'officialisation du cancer de Mitterrand, 4 jours avant le référendum. Quelle influence cela a-t-il pu avoir sur le scrutin? On ne sait pas trop. Et alors vous dites surtout que c'est très intéressant, c'est l'expression, elle est de Gérard Longuet, il dit que ce traité de Maastricht, le référendum, instaure le clivage de Maastricht le plus profond de notre société. C'est quoi ce clivage de Maastricht?
Alors c'est le clivage qu'avait aussi théorisé Philippe Séguin dans son fameux discours contre le traité de Maastricht, où il expliquait maintenant, avec ce référendum, en fait il y aura deux camps. Il y aura ce que Emmanuel Macron appelait les nationalistes contre les progressistes, ou ce que Marine Le Pen appelle les mondialistes contre les nationaux. Et on a vu ce clivage s'installer effectivement de manière très claire depuis la présidentielle de 2017, depuis que les finales de l'élection présidentielle par deux fois, cette finale a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
Mais c'est 25 ans après Maastricht.
Voilà, alors tout porte, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est le phénomène dans la longueur. C'est-à-dire que Maastricht est le début de l'installation de ce clivage-là. Et il y a une autre chose que disait Philippe Séguin dans son discours devant l'Assemblée nationale, c'est qu'il il mettait en garde. Il disait attention, si vous oubliez l'existence du sentiment national, vous allez exciter les nationalistes, c'est-à-dire que et les extrémistes. Donc c'est-à-dire qu'il disait, avec ce traité qui, en organisant plus de supranationalité, en organisant des transferts de souveraineté massifs à un échelon européen peu démocratique, eh bien vous allez susciter une réaction des nations qui ne voudront pas mourir. Et le clivage auquel on assiste aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays européens, bah, il répond exactement à cette prédiction-là. Ouais. Alors, ce n'est pas uniquement le traité de Maastricht, c'est aussi tout ce qui s'en est ensuivi par la suite et tous les effets de la construction européenne telle qu'on l'a connue dans les 30 dernières années. Mais effectivement, Maastricht marque le début de l'installation d'un clivage qui montre que la vie politique s'est focalisée autour d'une question considérée comme centrale et plus centrale que le traditionnel clivage droite-gauche qui se faisait sur des considérations essentiellement économiques et sociales.
Alors, d'ailleurs, alors, à l'époque aussi, quand on se replace, il y a des très belles pages de Marcel Gauchet sur cette époque-là. Et il écrit, Marcel Gauchet, ça m'a intrigué cette phrase, Mathieu Bocoté, j'aimerais bien que vous m'aidiez à la comprendre. Il explique qu'à l'époque, François Mitterrand, qui a cette obsession de l'Allemagne, hein, la réunification de l'Allemagne, ok, mais alors il va falloir les arrimer, donc on fait l'euro, etc. Et il y a cette conviction chez François Mitterrand qu'en faisant Maastricht, la France économiquement va y perdre. Oui, mais c'est pas grave parce que nous prendrons le leadership politique de cette Europe qui sortira de Maastricht. Véritablement, vous pensez ça, Mathieu?
Ben non, certainement pas moi. Mais il y a cette conviction, mais Marcel Gauchet a raison de prêter cette pensée à François Mitterrand, qui avait cette conviction que l'Allemagne était dangereuse et qu'il fallait la placer sous souveraineté supérieure. Et cette souveraineté supérieure était portée par la seule nation croyant vraiment à l'Europe politique, c'était la France. Donc ça, c'est le raisonnement de François Mitterrand. Il y a aussi là-dedans, il ne faut pas l'oublier, une forme de transfert de sacré à l'intérieur même de l'imaginaire de la gauche. Donc, à défaut d'avoir accompli le socialisme, la conviction qui permettait de se reporter vers un grand projet, laisser un héritage grandiose pour François Mitterrand.
On a raté le socialisme, on réussira l'Europe.
On va réussir l'Europe. Or, le fait est que ce qui s'est construit, c'est, je ne sais pas si c'est une Europe politique, mais c'est une forme d'empire supranational qui non seulement ne constitue pas une souveraineté européenne, mais plus encore cherche à mater les souverainetés nationales lorsque chaque nation, qu'il s'agisse de la France, de l'Italie, de la Pologne, chacun selon ses valeurs, cherche à préserver quand même son modèle national, quel qu'il soit. Puis j'ajoute une chose, pour Maastricht, c'est le traumatisme du référendum, c'est-à-dire ils sont passés bien près de le perdre. Oui. Et dès lors, quand en 2005, le référendum, qu'est-ce qu'on disait ensuite? On a dit on devrait pas le tenir parce que c'est une question trop complexe pour que le peuple s'en empare. Même chose avec le Brexit ensuite. Donc, est-ce que le peuple est le bienvenu dans la construction européenne? Pour plusieurs partisans de Maastricht, ils se sont dit plus jamais ça, on ne confiera plus au peuple la possibilité de faire dérailler l'histoire.
Ouais. Alors ça, c'est un point de vue qu'on qualifierait d'eurosceptique, Mathieu, mais vous l'assumez pleinement, ça je vous sais.
J'aurais voté non.
Mais il y a aussi quelque chose qui m'a un peu troublé dans ce que vous racontez dans Marianne ou Wiesalter. Vous dites, finalement, Philippe Séguin, après avoir perdu en 92, hein, je rappelle la victoire du oui à 51,04%, il est satisfait d'avoir perdu de peu. Philippe Séguin.
Philippe Séguin a beaucoup perdu dans sa vie politique. Oui. Et effectivement, ses proches et ceux qui nous parlent aujourd'hui de cette époque-là se demandent ce qu'il aurait fait d'une victoire du non. Une victoire qu'il a portée et qu'il n'a pas été le seul à porter, puisque c'était le début aussi de cette, vous savez, des fameux républicains des deux rives, c'est-à-dire du fait qu'à gauche comme à droite, des gens se mobilisaient pour faire barrage à ce qu'ils considéraient comme une obstruction à la souveraineté française.
On a ce clivage sur la question européenne dans les deux camps et la recomposition politique.
Ça a d'ailleurs existé aussi à gauche en 2005. Et d'ailleurs, on raconte comment un Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à lui, a fait campagne pour le oui à Maastricht en expliquant dans la foulée de François Mitterrand que c'était l'avenir de la gauche et que la nation n'était qu'une étape. Qu'il expliquait ça dans des tribunes, Jean-Luc Mélenchon, et comment désormais, en 2005, il a voté non. Et puis, il s'est fait ensuite une figure d'un certain souverainisme de gauche. Mais effectivement, Séguin, certains éléments portent à croire, y compris dans ses discours, qu'il n'était pas, il n'aurait pas su que faire d'une victoire pour son camp, mais dans tous les cas, il avait averti, quel que soit le résultat du référendum, c'était un tournant, c'est-à-dire que rien ne serait plus comme avant dans la vie politique une fois qu'on aurait posé cette question aux Français, parce qu'il s'agissait pour lui d'une question existentielle.
Voilà, le piège de Maastricht, c'était à la une de Marianne en kiosque jusqu'à encore ce soir avant un nouveau numéro à partir de demain. Merci Louis Osalter, merci Mathieu Bocoté.
Au grand plaisir.
Merci. À la semaine prochaine, 8h58. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Allez, Culture Média sur Europe 1 pour les auditeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Racontez-nous.
La révolution du caleçon, aucun rapport avec ce qui se passe à Nup. C'est la réalisatrice Océane Leroux qui s'est intéressée à la contraception masculine. Elle en avait marre de prendre la pilule depuis 15 ans alors qu'elle en a seulement 30. Elle nous racontera, c'est un doc qui passe ce soir sur Teva. Un petit pamphlet, petit par la taille, gros par l'énergie qu'on y trouve. Netflix, l'aliénation en série, signé du producteur Romain Blondeau. Il sera avec nous dans ce studio. Et puis Jeanne Chéral qui vient non pas pour un disque, mais pour un recueil de poèmes et de dessins érotiques.
Eh ben, bonne émission mon cher Philippe, chers auditeurs. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain 7h. Bye bye.